Salut les extraterriens. Est-ce que vous prenez soin de votre épargne? Moi, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui m'y a plongé tout de suite. Depuis tout jeune, j'ai appris à placer mon argent. Une autre activité que j'avais avec mon père, c'était de préparer le marathon. Et récemment, j'ai eu une réflexion que je voulais te partager. La course et le sport en général, c'est un peu comme l'épargne. Ça fait toujours peur au début, mais on ne regrette jamais d'avoir passé le pas. Plus on commence tôt, plus on est avantagé toute sa vie. Pour se lancer, le mieux, c'est d'avoir un plan et de s'y tenir dans la durée. Et enfin, pour réussir, il n'y a pas de secret, il faut être constant sur le long terme. Ça fait beaucoup de métaphores, vous ne trouvez pas? C'est pour cette raison que je voulais te présenter Quorum L'Épargne, notre partenaire. Quorum L'Épargne, c'est une entreprise dont la mission est de vous donner les clés pour naviguer dans le monde de l'épargne qui peut paraître complexe. Il propose des solutions d'épargne long terme et performantes qui sont à la fois transparentes, car c'est fondamental de comprendre où on place son argent, et accessibles, car certaines de leurs solutions permettent d'investir dès 50 euros. Donc c'est vraiment adapté à tout budget et on peut même y investir un petit montant pour se lancer. Bon, je vous rappelle qu'il faut toujours être vigilant et comme tout investissement, il y a toujours des risques. C'est également pour ça qu'il faut choisir un partenaire de confiance pour se lancer. Sachez que Quorum L'Épargne, c'est une équipe très sérieuse et un savoir-faire depuis de nombreuses années, des objectifs atteints depuis 12 ans. Ils accompagnent au quotidien plus de 120 000 épargnants et je leur fais confiance. J'ai moi-même ouvert un compte pour performer autant sur la piste qu'avec mon épargne. Pour finir, sachez que Quorum L'Épargne et le sport, c'est une histoire qui dure. Ils ont longtemps été engagés dans la voile et récemment, ils ont décidé d'accompagner 21 athlètes comme François Daen, Solène Pierret, que vous avez pu écouter sur le podcast Extraterrien. Donc la performance, c'est vraiment dans leur ADN et d'ailleurs, si vous souhaitez suivre la performance de leurs athlètes, allez sur le compte Instagram @quorum.sport. Bon épisode. Bonjour à toutes et à tous, c'est Bart et je suis ravi de vous accueillir pour ce nouvel épisode du podcast Extraterrien, le podcast qui interviewe des sportifs hors du commun. Le but de ce podcast est de vous partager leurs secrets, leur vie et d'en apprendre beaucoup plus sur eux afin d'en tirer un maximum de conseils. Donc si vous aimez le sport, l'aventure, le développement personnel ou que vous aimez simplement vous inspirer de personnalités remarquables, alors ce podcast est fait pour vous. Juste avant de commencer, j'ai quelques messages à vous faire passer. Si c'est la première fois que vous écoutez le podcast, je vous remercie d'être arrivé jusqu'ici. D'ailleurs, je vous recommande l'épisode avec Mathieu Torder qui a traversé l'Antarctique à seulement 27 ans. D'autre part, si vous ne le savez pas, j'ai beaucoup d'ambition avec ce podcast et je souhaite aller chercher des sportifs de plus en plus incroyables. Et j'aimerais vraiment interviewer vos sportifs préférés. Sachez que l'un des meilleurs moyens de les convaincre de participer, c'est notamment de leur montrer que vous êtes nombreux à adorer le podcast sur les réseaux sociaux et sur les notes iTunes. Donc si ce n'est pas encore fait, allez mettre une note sur Apple Podcasts ou iTunes, c'est vraiment ce qui m'aide le plus à inciter des sportifs connus à venir témoigner. Si vous écoutez plutôt sur Spotify, vous pouvez très facilement le partager en story sur Instagram, taguez-moi et je vous repartagerai. J'en profite donc pour vous rappeler le nom du compte Instagram, c'est extraterrien.podcast. Suivez-le et vous y retrouverez les coulisses du podcast. C'est aussi un excellent moyen de me faire vos retours et de me suggérer des invités. Enfin, j'ai aussi créé une newsletter que vous pouvez retrouver très facilement dans Google en tapant « Extraterrien Newsletter ». C'est le premier lien qui remonte. J'y partage des bons plans santé, matériel, préparation mentale, des livres, des documentaires qui m'ont beaucoup inspiré. Allez, je ne vous embête pas plus et je laisse place à mon invité du jour.
Salut Arnaud. Comment
Salut.
Ça va?
Salut Bart, bienvenue. Au Sable d'Olonne.
Ouais.
Dans mon atelier. Dans des belles vérandas d'époque, de mon premier partenaire avec une véranda qui valorise pas la marque parce qu'elles sont très vieilles, les pauvres, celles-là, mais elles nous rendent bien service, tu vois, et je me suis même fait virer de mon bureau à côté, ma véranda à côté, parce que y a du monde qui bosse, donc, voilà.
Bah, écoute, merci pour ton accueil, je suis hyper content, effectivement, je te rends visite, là, dans ton fief, du coup, au Sable d'Olonne, qui est le grand départ mythique aussi de la course Vendée Globe pour mes amis non amateurs de voile, et tu m'as fait un peu visiter là du coup dans ton atelier, c'est génial, c'est trop cool. Merci pour l'accueil, c'était hyper chaleureux. Bon, je sens qu'on va se rigoler aujourd'hui et je sens qu'on va bien se marrer.
Moi je me marre tout le temps, donc quoi qu'il arrive.
Tu m'attends la fleur au fusil. Mais comme je te dis, bon, j'ai une première question, un peu nostalgique, retour en enfance. C'est quoi ton premier souvenir de sport?
Alors moi, je suis originaire de Bordeaux. J'ai grandi à Arcachon. Que les choses soient claires, je suis pas du tout footeux, tu vois. Mais je suis les Girondins de Bordeaux, tu vois. Même si aujourd'hui ils sont en Ligue 2, tu vois.
Tu suis toujours les... maintenant.
Ouais. Okay. Ouais. Puis j'ai un ami d'enfance où des fois on va au match, voilà. Moi, ce qui m'a marqué, je me rappelle Alain Giresse qui marque un but. Je crois que c'était en équipe de France. Et il marque le but, il exulte. Je crois que c'était pour un mondial, tu vois. Je crois que c'était en 82. Okay. T'es ce fameux visage d'Alain Giresse qui exulte parce qu'il a marqué un but.
Ouais.
Et voilà, pourtant, je trouve ça clair, je suis pas du tout fouteux, mais j'adorais cette image que ça représente. Et puis Alain Giresse, c'est de Bordeaux. Donc voilà, le deuxième truc important pour moi, c'est la Mazou. Qui a préparé son premier Vendée Globe sur le bassin d'Arcachon. Et la première fois que je le croise, j'ai 17 ans et pour moi c'était une big star, tu vois, parce qu'il a déjà fait d'autres tours du monde avant que le Vendée Globe existe. Et il voyait que j'étais un jeune adolescent comme ça et il s'arrêtait, discutait avec moi. Et ça, c'est important parce que au quotidien, quand je croise du monde maintenant sur le ponton Vendée Globe ou quoi, des gamins et tout ça, ben je vous le dis, il faut pas que j'oublie d'où je viens et j'accorde beaucoup d'attention à ça, à cette gentillesse de la Mazou. Et après je lui redis, tu vois, que c'était génial, qu'il m'avait beaucoup apporté comme ça, de ce petit message sympathie, et je trouvais ça génial. Pour moi, c'était un extraterrestre.
Ouais.
Avant Yves Parlier, tu vois.
Ouais.
Je côtoyais aussi et je trouvais ça génial. Je trouve que les sportifs en moyenne, j'en côtoie quelques-uns, puisque le parrain du bateau, c'est Thomas Vauclair, et la marraine, c'était Sandrine. Ouais.
Génial.
Et ils ont ça qui me plaît, c'est qu'ils ont beau être super forts, ils sont super sympas. Mais ils sont super sympas avec moi, parce que voilà, aussi avec l'équipe, avec les gens au quotidien quand on les croise avec moi sur le bateau. Et pour moi, c'est ça important. Je préfère un sportif qui soit moins bon, mais qui soit humble. Mais des sportifs qui sont aussi bons que ça, comme Tessa et Thomas, qui sont d'une humilité, d'une sympathie, et qui déconnent aussi, hein. Faut.
Ouais, bien sûr.
Clair, hein.
Ouais, c'est bon déconneur.
C'est ça
aussi
que j'apprécie énormément, quoi.
Ouais. Ouais, ceux qui arrivent à garder cette part d'humanité, de simplicité, et qui se prennent pas non plus trop au sérieux, quoi.
C'est clair. Ouais. Bah, nous, c'est notre slogan, hein, c'est que on essaye de faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux.
Ouais. Voilà. C'est un très bon, c'est un très bon slogan.
C'est le slogan pour nos partenaires. Tu vois, on a navigué ce matin avec des partenaires, on avait un repas après et voilà, c'est ça, c'est que j'ai un nouveau bateau qui est plus performant avec des grands foils, là, ces fameux ailes sur le côté. Pour nous, c'est important d'amener les partenaires naviguer, que dire que le projet, le bateau est ouvert après sous certaines conditions de sécurité, mais voilà, c'est pas une écurie de Formule 1 qui est fermée, tout ça. Nous, c'est open et c'est important.
Bah écoute, ouais, je tenais à te remercier d'ailleurs pour votre accueil, parce que ça se sent que c'est naturel pour vous, quoi.
On t'avait à moitié oublié, hein.
C'est vrai.
C'est con, c'est mal.
J'étais pas dans l'agenda, apparemment. Quelqu'un avait fait son boulot. Non, je rigole d'ailleurs. On embrasse tous les deux Julien, qui nous a mis en relation. Mais ouais, tu m'as tout de suite mis à l'aise. C'est Manu qui a fait une place à côté de toi pour qu'on s'assoie ensemble, pour qu'on puisse discuter. T'es tout de suite intéressé à moi, tu vois. Et ça, c'est vrai que c'est, ça se sent que t'aimes ça, quoi. T'aimes ce contact humain, de découvrir les gens, de savoir un peu qui ils sont, de leur rentrer un peu dedans pour voir s'il y a un peu de répondant.
Ouais, mais c'est réciproque, on peut rentrer dedans, il n'y a aucun problème.
Je confirme.
Non, mais l'humain est important. Enfin, pour moi, l'humain est important dans ma vie personnelle, professionnelle aussi, et les gars qui m'entourent dans mon équipe sont ultra importants. J.C. Cazot, que t'as vu en arrivant, on a mis une longue date. Ce qui a posé problème à un moment, quand on a commencé à travailler ensemble, parce qu'on est tellement proches que travailler ensemble, puis en fait ça match, mais c'est important, tu vois.
Ouais.
Les soucis d'un gars qui travaille avec moi, c'est aussi mes soucis, et réciproquement, tu vois.
Bien sûr.
Quand on part sur des projets aussi lourds que faire le tour du monde en solitaire, c'est paradoxal, mais on est tout seul quand on part. En fait, avant, pour préparer le bateau, on est une équipe. Et eux, ils passent les 6 mois avant le départ du tour du monde, ils passent plus de temps avec moi ou sur le bateau qu'avec leur propre famille. Et quand je suis en mer tout seul, les gars, ils sont concernés. Ils sont pas concernés parce que c'est leur métier. Ils sont concernés parce que c'est leur trip, quoi. Ouais. C'est ça que j'aime, tu vois, dans ces projets-là. C'est que quand t'arrives d'un tour du monde, quand t'arrives d'une roue du Rhum, je vais faire la fin d'année, j'espère que j'arriverai à une bonne place, on a tous, ils ont la larme à l'œil parce que j'arrive de l'autre côté, moi j'ai la larme à l'œil parce que j'ai envie de les remercier tout ça, et voilà, ça dépasse du cadre du sponsor, ça dépasse du cadre de la collaboration, et mes sponsors c'est pareil, hein, le DG Amicaline, et on me dit souvent, moi mais il est voileux, mais il est pas du tout voileux. Il adhère à cet esprit de humain qu'il y a autour de mon projet, et lui, je le branche souvent parmi les navigués, il me dit non, je suis pas voileux, mais il va venir à l'arrivée de la Ronde du Rhum parce qu'il se sent plus que concerné, et je suis intégré comme dans une grande famille, quoi.
Ouais. Bah c'est un peu, tu vois, ça que je t'expliquais juste avant, là je découvre un peu la voile petit à petit, j'hésite à me mettre dans une bourse d'équipier et partir faire une transat comme ah, ça.
Vas-y, c'est top.
Mais ouais, non mais il faut absolument que je le fasse, tu vois. Et c'est un rêve de gamin, tu vois, en plus pour prendre ma revanche sur mes origines parisiennes.
C'est parfait, hein.
Exactement. Mais tu vois, c'est un truc que j'ai découvert en montant sur des pontons, en allant justement à votre rencontre, c'est que vous êtes, ouais, une vraie famille, et que ouais, au-delà de la passion de la voile, c'est le partage, ouais, c'est l'entente, c'est la déconnade qui vous...
Moi, je suis passionné par la mer avant tout. Quand j'étais gamin, à Arcachon, là, je voyais petites vagues arriver, tu vois, sur le bassin, pourtant, mais d'où elles viennent ces vagues, ça m'a toujours intrigué, tu vois.
Ouais.
Et j'ai toujours rêvé de faire ce que je fais aujourd'hui. Et donc, j'ai un privilège monstrueux. Je fais beaucoup de courses en solitaire, mais mes premières traversées de l'Atlantique, je les ai faites sur un catamaran de croisière, tu vois.
Ouais.
J'ai fait mes trois premières transats sur un catamaran de croisière. J'ai eu la chance d'être skipper pour un restaurateur d'Arcachon.
Ok.
Sur un catamaran de croisière, et ce restaurateur d'Arcachon, c'est un super pote à moi qui était à l'arrivée en Martinique de la Jacques Vabre, qui serait arrivé en Guadeloupe. On a plein d'amis en commun. Il est ami avec Jean-René Bernaudot, le manager de l'équipe Direct Énergie.
Okay.
Et du coup, c'est ça le milieu de la voile, mais c'est pas forcément un voileux.
Ouais.
C'est pour ça que ceux qui écoutent, c'est pas parce que t'es pas voileux que tu peux pas faire de la voile.
Ouais.
Je dis ça pour les gamins, je dis ça pour les adultes. Des fois, je croise des jeunes retraités, ils hésitent justement à faire comme toi, à se lancer, à faire l'équipier. Il y a beaucoup de bateaux qui partent d'ici, qui vont aux Antilles, des catas de croisière, et il y a des équipiers amateurs qui partent. Mais allez-y, c'est merveilleux.
Ouais.
Passer un mois en mer, et ça te permet de réfléchir à beaucoup de choses, et puis de relativiser aussi quand tu reviens à terre.
Ouais. Ouais, et puis je pense que t'apprends beaucoup sur toi, quoi.
T'apprends beaucoup sur toi, encore plus quand t'es tout seul, quoi.
Ouais.
Après, il n'y a pas que des moments de joie, des moments de doute, tu pleures de joie, tu pleures de doute, tu pleures de déception, puis à l'arrivée, des fois, tu te dis, mais j'étais ridicule de pleurer tout ça, mais voilà, ça te permet de grandir un peu, je sais pas.
Ouais, c'est clair. T'as très vite su que c'est ça que tu voulais faire de ta vie. T'as mentionné, t'as dit ouais, j'étais sur les pontons et j'en avais tout de suite envie.
J'avais envie de partir en mer, quoi. J'avais envie de partir à la voile en mer.
Parce que tu vois, il y a plein de métiers il y a plein de métiers ou de vie qui te permettent de vivre ta vie en mer, tu vois. Moi j'ai des copains qui font des convois ou
ouais,
qui font un peu de l'assistance, ou même t'aurais pu bosser dans l'événementiel autour des sports de voile, tu vois.
Ah, mais événementiel, j'aurais trop foutu le bordel. Non, mais ouais, alors tu vois, au moment où je suis adolescent et tout ça, donc je faisais de la régate, tu vois,
ouais,
en équipage, tu vois, ça me passionnait, mais j'avais besoin de large, tu vois. J'avais okay, envie de découvrir le large, donc rapidement j'ai fait des petits convoyages,
ouais,
et puis j'ai eu l'opportunité, comme je disais tout à l'heure, d'être skipper de ce catamaran, et du coup mes potes de l'époque ils m'ont dit bon bah t'arrêtes, tu feras plus de course alors, du coup, parce que tu pars convoyer un bateau, tu pars travailler sur ce catamaran de croisière pendant 2 ans là pour mon pote Bernard Moriou, maintenant qui est en Guadeloupe. Non, pour moi, c'était une petite parenthèse. Et en fait, pendant ce moment-là, j'ai appris beaucoup de choses aussi.
Ouais,
en technique pure, tu vois.
Ouais.
Et moi, je suis un amoureux de la mer. J'ai beaucoup d'amis pêcheurs, tu vois, parce que il y a toujours le petite rivalité entre le pêchou et le plaisancier. Le pêchou, il te dit que moi, je suis plaisancier, tu vois. Du coup, on se frite verbalement, parce que sinon, je prends une raclée. Et un des pêcheurs des sables avec qui je suis devenu super ami, il s'est mis à la voile maintenant, tu vois. Donc il me dit,
okay,
je me suis pas mis à la voile, je me suis mis à la plaisance. Il me dit, mais c'est pas si facile que ça, vos trucs là.
Ouais.
Et c'est chouette, ouais. Tu vois, on est forcément respectueux de l'océan, amoureux de tout ça. Et moi, ça m'a donné envie de partir, et je trouve que c'est génial. Et moi, je vis J'ai une vie de gamin, de rêve éveillé, quoi. Moi, je rêvais de faire le tour du monde à la voile. Je rêvais de faire une fois, je pensais même pas au Vendée Globe, de faire une fois le Cap Horn. Ouais. Donc, j'ai fait quatre fois, tu vois. C'est quand même assez incroyable, c'est à moitié improbable, hein, mais bon. Mais je m'assois pas là-dessus en me disant, je suis comme un jeune gamin, c'est génial ce que je fais. J'ai envie d'aller plus vite, de faire mieux que ce que j'ai fait, de finir mieux mes courses, de finir mes courses sportivement et tout ça. Donc je me mets, c'est moi qui me mets la pression, c'est pas les sponsors, c'est moi ou l'équipe, mais ouais. Et voilà, je reste compétiteur dans l'âme. Ça marche pas à tous les coups, mais je reste compétiteur dans l'âme.
Et qu'est-ce qui fait que, tu vois, il y a une des questions que je voulais te poser, c'est que tu as beaucoup d'athlètes que je rencontre, ils ont des carrières assez courtes entre guillemets. Mmh. Tu vois, ils vont eux dès le collège, ils rentrent dans les filières, tu vois, de performance. Et puis il faut que entre 22 et 27 ans, il faut qu'ils soient au top niveau et il faut qu'ils fassent durer ce top niveau 5, 6, 7, allez 10 ans max. Mais c'est dur de faire plus et puis après du jour au lendemain, ça s'arrête, tu vois, hormis quelques grandes exceptions. Dans la voile, c'est des carrières, c'est vraiment des histoires de vie pour le coup. Toi, on l'entend, t'as commencé en tant qu'ado et ça dure. Et je sais pas quel est le. J'ai rencontré Alan du coup qui est le plus jeune finisher du Vendée Globe. Je sais pas qui est le plus vieux parmi vous. C'est pas l'anglais.
C'est Trey Cookson, l'américain.
L'américain.
Trey Cookson, ouais. Qui est un mec super, ouais.
Mais du coup, c'est vraiment des histoires de vie.
Ouais.
Et moi, une des questions que je me demandais, c'est comment la passion elle fait pour Dieu, enfin. Elle fait pour durer, tu vois. Est-ce que c'est naturel? C'est juste la passion pour la mer qui reste. Parce que quand tu vas voir un tennisman, même un Roger Federer à 40 ans, il te dit, je commence à un peu en avoir marre, tu vois. Et lui, il va t'expliquer, je sais pas si t'avais entendu cette interview où Roger Federer, on lui dit, mais pourquoi vous continuez? Il dit, mais mec, si je fais un quart de finale à Wimbledon, je prends $1 million. C'est con, mais il assume, il est hyper franc et il dit bah voilà, moi si je continue à cet âge-là, c'est aussi pour ça.
Nous au moins en voile, on n'est pas trop emmerdé avec ça. Parce que c'est pas avec les primes qu'on va faire quoi que ce soit.
C'est clair.
Mais en revanche, nous la voile, il y a un truc, c'est que c'est pas plus t'es vieux, meilleur t'es, c'est pas tout à fait ça. Mais tu peux durer parce que alors c'est quand même de plus en plus jeune, c'est sûr. Il y a une jeune garde qui arrive, qui est super sympa, tu vois. Bon, Alan, il a déjà fait le Vendée Globe. C'est un marin averti, c'est un super compétiteur. Mais nous, en fait, les projets, ils ont besoin de mûrir. Et les bonhommes, les marins, ils ont besoin de mûrir aussi.
Bien sûr.
Donc, tu vois, Loïc Perron, s'il fait le Vendée Globe là, dans 4 ans, il est capable d'être méga performant, il est capable de gagner presque, Loïc Perron, tu vois.
Ouais.
Et avec Tabarly, il a continué longtemps la voile. Après, je pense que c'est un milieu de passionné. Si à un moment, tu doutes, ou tu dis, je continue parce que je peux pas faire autre chose, ou... Comme Federer pour gagner de l'argent. Bon, nous, l'argent, c'est pas trop ça qui nous... Il faut arrêter, parce que nous, la voile, ça peut être dangereux. Tu vois, faire un tour du monde par obligation, ça matche pas. Il faut être passionné. Quel que soit le niveau sportif et le niveau du sponsor que t'as, il faut être passionné. Mais la passion, il faut qu'elle t'anime toi, mais il faut qu'elle anime aussi les gens qui t'entourent.
Ouais.
Il faut être capable de dire à ta compagne, de dire à tes parents, j'ai la chance encore d'avoir mes parents... qui d'ailleurs après le premier Vendée Globe m'ont dit bon maintenant c'est fini, tu vas faire un vrai métier, c'est raté, tu vois, je vais pas le refaire. Il faut amener du monde avec toi, mais que le monde que tu amènes avec toi, il te soutienne. Ouais. Moi j'ai pas honte de dire, j'ai besoin de soutien pour partir. Je suis pas là, je fais pas le malin en disant je pars parce que je suis plus fort que les autres. Je pars parce que il y a du monde qui m'aide à préparer le bateau, mais aussi à la famille qui me pousse, qui m'accompagne, et puis il y a les sponsors qui m'accompagnent. Ils m'accompagnent, oui, tu vas dire, c'est les sponsors. Mais c'est bien plus que ça. T'as vu à midi, là, tu nous as rejoint pour manger. C'est sympa, le côté convivial, mais le côté aussi où ils se sentent investis aussi, tu vois, de ce projet-là. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie. Avoir une grosse enseigne, avoir un chèque à un fin d'année, et puis tu fais ton poster et c'est tout, ça me correspond pas, quoi. Ouais. Ça me correspond plus d'être quotidien, d'être, voilà. Le DG Mikaïn, on se parle souvent, tu vois, mais des fois on mange ensemble, pas forcément pour parler du partenariat, on mange ensemble parce qu'on est content de se voir, quoi.
Ouais, vous êtes devenus amis, quoi. C'est une histoire d'amis.
Ah bah ouais, carrément. Ouais.
Bah tu vois, j'en parlais un peu avec Thomas Coville aussi, que j'avais reçu sur le podcast, et tu vois, lui, son histoire, j'ai oublié la personne du côté de Sodebo, mais tu vois, c'est...
Avec Patricia Brochard et Joseph Bougreau, bah oui, c'est partie de la famille Sodebo, lui.
Ouais, exactement, et tu vois, et si Thomas décide d'arrêter, je pense que Sodebo et la voile, il peut y avoir des chances pour que ça s'arrête, tu vois, aussi. C'est aussi des histoires d'humains,
quoi. Ouais, c'est très humain. Sodebo, c'est une entreprise vendéenne, hein.
Ouais.
On a beau dire, moi, je suis pas vendéen d'origine, hein, je suis du sud-ouest, mais y a un côté oui, fratrie, côté familial qui est très fort quoi.
Ouais.
En Vendée quoi.
Ouais, c'est clair.
C'est attachant hein, franchement hein. Ouais. Moi j'habite ici et tout, c'est voilà.
T'es adopté enfin ?
Bah, j'étais vite adopté pour plusieurs raisons, parce que mon premier bateau avec lequel j'ai fait mon premier Vendée Globe avait une histoire vendéenne, puisque c'était le premier ouais. Sodebo justement.
Ouais.
Après une VMI qui était une boîte vendéenne. Et mon partenaire de l'époque, Akena Veranda, quand je signe le partenariat avec eux, ils me disent une des conditions, c'est que tu t'installes au sable. Bon, moi, je pars du principe, bah, c'est comme un boulot, hein, le boulot, tu vas là où il est, hein, si
ouais, bien sûr.
Motif, voilà. Donc j'étais à La Rochelle, tu vois, à l'époque. Et quand je suis arrivé ici avec mon premier Akena à l'époque, il y a eu tout de suite eu du monde sur le ponton qui était là pour m'accueillir. Alors, des amateurs, des petits vieux qui sont passionnés, qui m'ont sorti les photos de l'époque du bateau et de la construction du bateau. Et ce bateau-là était construit au sable aussi, tu vois.
Ouais.
Et du coup, rapidement, j'ai vu ça avec beaucoup d'amusement. Les petits pêcheurs du coin ou les anciens pêcheurs, ils m'ont branché. Oui, ok. Puis du coup, ils m'ont fait goûter la trouspinette, c'est l'alcool local. On a rigolé avec l'équipe et tout. Et du coup, c'est devenu, voilà, rapidement, je m'y suis bien senti. Et puis surtout, j'ai pas pris au premier degré en le prenant mal, tu vois, au contraire.
Ouais.
Donc, du coup, maintenant, on dit que je suis arcachonnois. Arcachonnais et chômois, parce que c'est le petit quartier de la Chaume.
Ah, qui est à côté, ouais, c'est ça.
Quartier des pêcheurs, et c'est là où j'habite en plus. Donc,
arcachonnois.
Donc, adopté, okay. Ouais, adopté, ouais, carrément. Mais j'oublie pas non plus mes origines, hein, comme je te disais tout à l'heure. J'étais licencié au club Laval Arcachon quand j'étais jeune au CVA, et je suis toujours licencié au CVA. Je prends ma licence toujours là-bas et je prends beaucoup de plaisir à voir le président actuel, à avoir des contacts avec mon ancien président à l'époque où j'étais beaucoup, et je pense que c'est important de pas oublier ses origines. Et d'ailleurs ici, il y a aucun club de vol qui me branche pour venir ici, hein, pour être licencié ici.
Vous êtes obligé d'être licencié dans un club?
Ouais.
Ouais, normal, comme tout pratiquant, licence, ouais. Bien sûr. C'est à ce club-là que tu rencontres Yannick, qui est Yannick Bestaven, du coup, très grand marin, est-ce qu'on peut dire que c'est ton meilleur ami, ou un de tes meilleurs amis, en tout cas?
Ouais, bon, en tout cas, on est extrêmement complices, ouais.
Combien de courses vous avez fait, ensemble en tant que coéquipier et ensemble en tant que outsider? Vous avez dû en faire plusieurs dizaines, non?
En fait, on s'est fait un paquet de courses l'un contre l'autre.
Ouais.
Parce qu'en fait, quand on se rencontre à Arcachon, que le voir Arcachon, mais il y a pas qu'Annick, on était une bande de copains. Il y avait Jean-Marie Doris aussi,
ouais,
qui a fait les Jeux Olympiques et qui a fait la Colerica.
Ouais, c'est ça. Vous étiez une sacrée team de voileux. Ouais, il y en a qui ont bossé avec toi après, d'autres qui ont bossé avec Yannick.
Exactement. Ouais. Donc Jean-Marie, maintenant il est directeur technique de son projet, Yannick, avec Maître Coq. Il y avait Romaric Neusser. Maintenant, lui, il est plutôt architecte naval.
Okay.
Celui qui a dessiné Arkema, le trimaran de 50 pieds. Un peu plus vieux que nous, il y a Philippe Presti qui venait nous voir de temps en temps pour nous embarquer.
Ouais.
Philippe Presti qui est quand même l'entraîneur des Américains pour la Coupe d'Américains.
Ouais.
Donc en fait,
c'est
quand
fou,
on dit
cette
que
génération,
quand...
cette
Pete Arcachon. Moi, je tends à dire
dans le même club là.
Quand tu veux faire de la voile et que t'es pas breton, ça démarre mal. Mais en fait, Arcachon, il y a beaucoup de régatiers, de marins. Il y a toujours des régatiers de haut vol.
Il y en a eu avant vous. Non, il semble quand même qu'il y ait quelques grands coureurs au large, non?
Ah bah il y a quand même Lamazou qui a gagné.
Ouais, voilà, c'est ça, ouais.
Et puis il y a Yves Parlier.
Et Parlier.
Tu vois,
les deux femmes.
Le sinon Yves Parlier, c'est quand même extraterrestre.
Je savais pas que les deux venaient d'Arcachon.
Ouais.
Donc, ok.
Alors Lamazou était du Béarn, tu vois.
Ouais.
Et Yves Parlier est toujours Arcachon, ouais.
Ok.
Ah ouais. Yves Parlier, c'est un mec atypique, attachant et extrêmement passionnant de innovations qui sort. Son bateau à l'époque, c'était Aquitaine Innovation.
Mmh.
Il a sorti plein d'innovations sur les gréements et tout ça. Donc, et c'est quelqu'un qui nous a beaucoup aidé avec Canning. Donc, pour ça, Arcachon, on gravitait là-dedans.
Vous êtes un groupe de potes.
Puis, on était un groupe de potes, un peu branleurs sur les bords quand même, faut pas se leurrer, mais branleurs dans le bon sens du terme, tu vois, où dès qu'on pouvait naviguer, on allait naviguer, quoi.
Ouais.
Et Yves nous a beaucoup aidé parce qu'il nous voyait en train de se démener pour monter des projets. Il nous a beaucoup aidé. L'un et l'autre et ensemble. Après, on a monté un projet ensemble à Yannick, on a construit pour deux bateaux, tu vois, donc c'était assez marrant. Okay. On a même mis au sort le premier bateau pour savoir qui aura le premier bateau.
Okay.
C'est comme ça qu'on fait la mini Transat, où Yannick il gagne et moi je fais troisième. Et après, on a fait pas mal d'autres courses, un peu séparément, parce que du coup, moi je me suis plus orienté vers du Figaro, lui il s'est plus orienté vers la Route du Rhum qu'il avait fait en 2002, tu vois.
Ok, ouais.
Et voilà, là, tu vois, il a mis à l'eau son bateau avant-hier, j'envoie un message de félicitations. Le soir, il m'écrivait, on rigolait, voilà. Et puis Jean-Marie m'a envoyé une photo tout à l'heure, il était en train de conveiller le bateau. Donc voilà, c'est. Pourtant, on peut se dire, on peut être concurrent, mais on n'est pas. On n'est pas concurrent. Il n'avait pas de bateau, son bateau était en construction, il est venu naviguer avec moi. Moi, ça m'intéresse d'avoir un ami avec moi naviguer, mais ça m'intéresse aussi d'avoir le mec qui a gagné Vendée Globe naviguer, tu vois. Donc c'était les deux côtés, quoi. Ouais. Donc c'est, voilà, c'est chouette. Bon, on se retrouve souvent à Arcachon, et quand on se retrouve à Arcachon, souvent on parle de tout sauf de voile.
Ouais. Ouais, mais j'imagine. Mais ça aide justement, tu sais, quand t'es jeune. À construire une carrière de marin, tu vois, on sait que c'est pas facile, faut aller chercher un peu des sous, vous faites souvent des projets où vous vous endettez, c'est quand même, puis vous partez aussi plusieurs semaines en mer, donc va trouver un job un peu normal, tu vois, quand tu fais ça, enfin je sais pas trop comment vous vivez à l'époque, tu vois, mais ça aide d'être deux justement pour se filer les bons plans, partager, économiser certains coûts, tu vois, ou pour construire un peu cette carrière-là, j'ai l'impression que j'ai plusieurs histoires, bah tu vois justement j'en ai une dans le triathlon qui est assez marrante, c'est celle de Dorian Coninx et Léo Bergère, qui sont deux petits jeunes en ce moment qui explosent. Ils étaient premier et troisième là au championnat d'Europe, et ils ont fait ouais une grosse partie de leur chemin ensemble, tu vois, et en fait ils se partagent tout, quoi, et ils expliquent à quel point ça les aide. Donc je sais pas pourquoi, bah ouais, pour vous c'était un peu ça. Ouais,
ouais, mais pour la forêt là où ils ont fait le centre d'entraînement, ils ont tout compris il y a très longtemps, hein. C'était Jean Lecam en Jourdain qui avait créé ça, c'était à plusieurs, on est meilleur pour progresser ensemble, être meilleur que les autres. Ouais. Donc c'était pareil, on était deux, c'était plus important, plus intéressant d'être deux pour progresser ensemble, pour construire un bateau avec des compétences différentes, parce qu'Yannick est plus technicien, il est plus entre guillemets ingénieur à regarder les plans du bateau, et du coup à deux on était, oui, et puis se soutenir moralement, parce que comme tu dis, il faut quand même trouver des sponsors avec des hauts et des bas, quoi.
Ouais.
Et des hauts et des bas, on a eu beaucoup de bas, hein, parce que à l'époque, on construisait des bateaux, on n'avait pas vraiment de sponsors, et puis heureusement qu'on avait Yves Parly derrière qui nous aidait à être crédible par rapport aux fournisseurs, et puis qu'on avait une amorce de contact avec un partenaire, mais Yves l'appelait pour nous quand même, donc tu vois.
Ah ouais, carrément.
C'est plus que deux, quoi, tu vois, on avait l'extraterrestre au-dessus de nous, parce que les extraterrestres quand même c'est son surnom, hein.
Ouais, bien sûr,
bien sûr. Qui nous aidait, donc ouais, c'est important d'être plusieurs. Après, il y a pas que deux, hein, parce que il y a Pierre Simon,
oui,
qui a fait aussi la Coupe América, qui a été mon chef de projet après, qui était le chef de base et un des entraîneurs aussi à Arcachon, qui nous a beaucoup aidé, tu vois. Il nous aidait à trouver des équipages pour nous embarquer, il nous aidait à trouver un peu des jobs. Entre deux régates qu'on faisait, nous, on gagnait pas d'argent. Nous, à l'époque, on essayait de pas trop en perdre, tu vois. Ouais. Donc, on naviguait sur d'autres bateaux.
Tu vis comment? Tu fais des petits jobs?
Préparateur de bateaux. Ouais. J'ai préparé deux saisons la solitaire du Figaro pour Catherine Chabot.
Ok.
Et puis, on préparait le bateau d'Yves Parlier. Donc, voilà, ouais. On naviguait sur le bateau. Donc, on était un petit peu payé. Et puis, dès qu'on arrivait sur nos bateaux à nous, on en perdait d'argent. C'est la vie. Et si à la fin d'année on pouvait être à peu près pas trop dans le violet que dans le rouge, ça passe. Non, mais à l'époque c'était différent aussi. On a, ouais. Moi, mes parents, ils habitent toujours à Arcachon, donc voilà, toi, j'avais rien. Enfin, j'avais pas de crédit. J'avais récupéré à l'arrache la voiture de mon grand-père qui venait de décéder, donc c'était une R9 toute pourrie, qui était devenue toute pourrie, parce que mon grand-père était très maniaque, avec moi, était devenue toute pourrie, mais bon, des bornes, j'en ai fait, j'ai dû faire 320 000 bornes avec la voiture, quoi.
Ouais.
Et voilà, on vivait de rien, et surtout, on vivait de passion. Dès qu'on pouvait naviguer, on y allait. Je me souviens même d'avoir simulé une révision du bac pour aller faire une régate en Bretagne.
Ouais.
Du coup, je n'ai pas eu cette année-là le bac.
C'est pas grave, partir au vice. Tu vois, là, on a beaucoup parlé de ta jeunesse, ton enfance et tout. Et il y a un petit passage qu'on a un peu, qu'on a omis, qu'on n'a pas mentionné. Mais moi, qui m'a beaucoup touché, je connaissais pas du tout ce moment-là de ta vie quand je voyais tes images, quand je voyais tout, je m'en doutais même pas. Mais t'as été atteint d'une leucémie à 17 ans, je crois, 17, ouais. 18 ans. Ce qui est hyper jeune. Moi, déjà, j'ai deux questions. Les deux premières, c'est comment un gamin de 17 ans, il le vit quand, parce que c'est quand même une sacrée claque dans la gueule, tu vois, de la vie, tu vois. Et la deuxième question que je me pose, c'est en quoi ça te rend plus fort aujourd'hui?
Alors la première question, effectivement, quand t'as 17 ans, bon surtout à cette époque-là, hein, j'ai eu 50 ans cette année, je savais pas qu'on pouvait être malade comme ça. Du jour au lendemain, quasiment, je rentre du lycée.
T'as des symptômes, t'as des trucs.
Alors j'ai une chance extraordinaire, je suis rentré à pied, il faisait très chaud comme on a eu cet été là. Je rentre à pied à la maison et là je suis essoufflé en fait. Je suis essoufflé parce qu'en fait j'ai une poche d'eau qui s'est créée entre mes poumons.
Ouais.
Et du coup ça a révélé que j'avais quelque chose de pas normal. Moi à l'époque je croyais que bon je me fais opérer et puis 15 jours après c'est bon. Ah ben non c'est plus compliqué que ça. Ouais. Et j'ai
pour,
vu.
Ouais, juste pour expliquer la leucémie, effectivement c'est tes organes se mettent à produire plus d'eau, c'est ça, ou à gonfler
c'est
un peu.
C'est une maladie du sang.
Ouais.
Et après cette maladie du sang, elle fait que tu peux pas vivre normalement. Donc ouais. Il peut se passer des choses différentes. Là, j'ai voilà plus une poche d'eau qui s'est créée, qui s'est créée entre mes poumons. C'était une chance au final, parce que comme ça, on a pu déceler que j'étais malade. Des fois, tu arrives pas à déceler tout de suite. Ouais. Donc la chance que j'ai eue, c'est que ça s'est décelé rapidement, que j'étais jeune, en bonne santé physique, on va dire, en tout cas. Le troisième truc, c'est que j'étais extrêmement bien entouré, hein, familialement, mes parents et mes grandes sœurs. Tu prends une sacrée claque, surtout que j'étais en première, tu sais.
Ouais.
Ah, cool, ça y est, c'est la fin d'année scolaire. Bon, vite, on allait faire du bateau à Arcachon, ou aller faire, je faisais beaucoup de tennis, je faisais, bon, voilà. Là, tu prends une claque dans ta gueule quand on te dit que finalement, tu as passé, j'ai passé tout l'été, à l'hôpital.
Ouais.
Et je l'ai vu beaucoup dans le regard des autres. Alors surtout dans le regard de mon père, mon père qui est très sensible et tout ça, j'ai vu à sa tête que c'était quelque chose de grave et
okay.
que c'était quelque chose qui avait transformé ma vie, c'est sûr. Hein. Enfin, j'ai eu la chance que d'être guéri, mais aussi la vie de mon entourage, mes parents et mes sœurs, forcément, ça les a traumatisés. Donc, est-ce que ça a changé ma vie? Oui, c'est sûr. Bon, j'en suis sorti, heureusement. Enfin, heureusement, ouais. Et c'est peut-être pour ça que je prends aujourd'hui beaucoup plus tout. Enfin, le lendemain de ma guérison, tout un peu plus à la dérision. Mais déjà, je déconnais beaucoup à l'époque. Hein.
Ouais.
Donc, bon. Est-ce que c'est
les
pour
chiens
ça...
font pas des chiens. Non,
ouais,
non.
Voilà. Est-ce que c'est pour ça que j'ai fait le Vendée Globe? Je sais pas, mais j'étais passionné par ça. Le hasard de la vie fait que, à 17 ans, c'était en 89. 89, c'était le premier Vendée Globe.
Ouais.
Et du coup, en novembre de cette année-là, du coup, ou au mois de juin, il décèle que je suis vraiment malade. Mon père avait acheté deux places sur un bateau à passagers, tu vois, pour voir le départ du premier Vendée Globe. Il attendait un peu le dernier moment pour me le dire. Il savait pas si j'étais en forme. Et au final, quelques jours avant, il me dit, j'ai deux places, j'ai acheté deux places pour avoir le départ du premier Vendée Globe. Il était en voiture, il avait réservé l'hôtel et je m'en souviens comme c'était hier. Est-ce que c'est pour ça que je fais le Vendée Globe? Je pense pas non plus. Mais ça m'a donné une approche de la vie différente en me disant il faut être passionné, il faut faire les choses par passion. Et comme je te parlais tout à l'heure, notamment la Mazo qui gagne cette année-là le premier Vendée Globe, j'avais croisé deux, trois fois, j'ai été le voir en chantier à Arcachon. Pour moi, c'était... Je suis pas sûr si on peut le comparer à Neymar parce qu'il est tellement d'une gentillesse extraordinaire, d'une humilité extraordinaire à Mazou. Il est fort en tout d'ailleurs, parce qu'en bateau, mais en dessin, il écrit bien et tout ça. Que du coup, j'ai même été le voir à Bordeaux après quand il était reçu par Chaban Delmas, quand il a gagné Vendée Globe. Donc pour moi, c'était génial. Et j'ai eu la chance de côtoyer après mon premier Vendée Globe, j'ai fini. Et pareil, j'ai vu que c'était... Quelque part, tu m'as un peu sauvé parce que pendant ce premier Vendée Globe que tu as gagné, moi j'étais malade et je suivais au quotidien. J'enregistrais avec les cassettes, la chef, tu vois. Tous les trucs, tous les reportages qu'il y avait sur le Vendée Globe, et bon, et sur lui, forcément. Et du coup, ça m'a beaucoup aidé à passer ce cap dur, quoi. Donc je dis des fois, j'ai fini 4 Vendée Globe, mais mon premier Vendée Globe, peut-être que c'est celui-là qui m'a aidé à prendre le virage de la vie un peu différemment. Et c'est très étrange parce que du coup, quand je croise des jeunes, malades ou pas malades et tout, moi je vis dans la tolérance. Je trouve qu'il faut être extrêmement tolérant. Moi, ce qui m'a choqué à cette époque-là, c'est que j'étais très maigre, tu vois, j'avais perdu mes cheveux.
Ouais.
Et des fois, les gens me regardaient bizarrement, tu vois. Et voilà. Donc, je trouve qu'il faut être tolérant dans la vie. Après, c'est pas, j'ai aucune leçon à donner. En tout cas, je vis ça pleinement et c'était passionnant, de pouvoir, voir ça après coup, de voir des gamins qui sont malades. On amène des jeunes malades qui sont en rémission des fois. Et Je vais jamais naviguer sur bateau et je leur dis rapidement ce que j'ai vécu. Et je peux te dire qu'on discute différemment. On discute du bateau, oui, c'est sûr. Mais on discute aussi de la vie. Tu vois, il y a des jeunes qui ont 25 ans, qui sont venus naviguer sur bateau, qui sont en rémission, qui sont malades. Il y a une jeune fille qui, du coup, elle, sa revanche, c'est qu'elle est infirmière. Et ça, je trouvais ça admirable. Moi, je suis incapable. Tu me parles d'une piqûre, genre ça. Au secours, on va dire rétro, tu vois.
Ouais.
Et je trouve ça génial. Du coup, son regard est différent. On me regarde moins. Enfin, ce jeune-là me regarde moins comme quelqu'un qui est navigateur, mais plus comme quelqu'un qui a vécu une chose que assez chouette. Okay. Non, et pour finir, pour ce quart d'heure un peu particulier de ma vie, mais qui est important de me dire, hein, parce que c'est important de dire que tu peux être jeune, malade ou souffrant, que tu peux t'en sortir et continuer la vie derrière. Il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré le docteur qui m'a soigné,
ouais,
qui est maintenant à la retraite, hein, qui habite toujours Bordeaux. Et je suis retourné à l'Institut Bergonié qui m'a soigné. Il se trouve que le nouveau directeur est passionné de bateau et il m'a reçu. Et je peux te dire, quand je suis rentré là, j'étais comme si je retournais refaire une chimio. Et en fait, j'allais, bon, il me faisait visiter et tout ça. Et je mangeais avec le directeur de l'Institut Bergonié. Et après, au dessert, il y a le médecin qui m'a soigné qui est venu.
Ok.
Et tout de suite, j'ai reconnu, c'est incroyable. Et j'ai eu la chance, le moment opportun de le prendre dans mes bras et lui dire merci. Et je peux te dire que qu'est-ce que ça fait du bien.
Ouais.
Non, mais parce que lui,
c'est
son métier. Ouais. Et quand t'es soigné, tu t'en vas, quoi.
Ouais.
Et tu reviens
plus. Sinon, tu le repasses pas.
Voilà.
T'es complètement dans les choux. Voilà. Et je te rends pas compte. Ouais.
Ma mère y allait tous les ans jusqu'à la période de sa retraite. Amener à chaque fois en fin d'année une boîte de chocolat et tout ça. Et il était gêné, tu vois.
Ouais.
Et du coup, on a pris le café ensemble. Et au début, je savais pas quoi lui dire. Et puis, bon, tu vois, je parle beaucoup. Lui, il est extrêmement discret. Et à la fin, on est restés un peu tous les deux. Et du coup, je l'ai pris dans mes bras, le petit monsieur qui est maintenant. Et je lui dis merci. Il était ému comme moi.
Ouais.
Et c'est chouette parce que c'est le moment de vie. Voilà, j'ai 50 ans, c'était 17 ans. Pour moi, c'était comme hier. Il n'y a pas une journée, je pense pas. C'est pas vrai, mais j'y pense souvent quand je croise des gens. Qui sont pas en forme ou autre, voilà. La tolérance, encore une fois, avec beaucoup d'éconnades, c'est important, mais la tolérance, pour moi, c'est primordial dans la vie d'aujourd'hui, surtout dans la société, dans laquelle on évolue.
C'est bien de le dire, carrément.
Ah, mais tu sais, en plus, je sais pas si t'as envie ou quoi, mais tu sais, des fois, on te dit, t'en uses et tout ça, mais je cherche pas à m'user de le fait que j'étais malade, le fait la mini-notoriété liée à la voile. Bon, au contraire, j'en déconne tout le temps. Ce que je dis à mon grand garçon qui a 16 ans, Hugo, là, qui est scolarisé dans les Landes, là, je lui dis, mais est-ce que je fais malin? Ben, carrément, je fais malin. Je fais malin parce que, quelque part, c'est une fierté de ce que je fais, mais la fierté, je dois beaucoup à mes parents, à mes sœurs, mais aussi, il faut que mes enfants et ceux qui m'entourent, ils soient fiers de ça. Cette mini-réussite, voilà, après, la réussite sportive, c'est autre chose, mais en tout cas, de bien le vivre, tu vois. C'est pour ça qu'on disait tout à l'heure... Si on se met en bas là, on va être emmerdé tous les quarts d'heure parce que mon atelier comme le bateau, c'est un moment, c'est un espace pas de rencontre, j'exagère, mais de vie où il y a des gens qui passent des fois demander un poster ou discuter ou juste voir au quotidien comment ça va, quoi.
Ouais.
Donc je pense qu'il faut, voilà, c'est pour ça qu'il faut relativiser énormément, il faut un minimum de répartie, mais aussi de tolérance parce que c'est important.
Ouais. Exactement. Il faut aussi rester humble de manière générale face à la vie, parce que tu peux. Ouais.
La mer, c'est comme la montagne. Tu peux rester que humble. Et puis par rapport à la vie, du jour au lendemain, il peut t'arriver un accident, il peut arriver un problème de santé. Donc profitons à fond, sans trop faire de conneries. Mais en tout cas, je pense qu'il faut être passionné.
Ouais.
Je trouve que le sport, quel qu'il soit, c'est il y a rien de mieux que le sport.
Ouais.
Pour voilà.
Il y a c'est vrai qu'il y a peu de choses dans la vie qui peuvent te faire faire une activité pendant des heures et des heures et des heures et des heures sans être payé, sans te lasser et avoir envie de progresser et de continuer, ouais. Tu vois. Il y a peu de trucs dans la vie qui t'a ça. Et c'est, je pense, la définition d'une passion, quoi.
Ah bah ouais.
Donc, clairement.
C'est clair. Ouais. Toi, je me suis remis au tennis, tu vois.
Ah, bonne chose.
J'ai beaucoup joué quand j'étais jeune.
Ouais.
Et le Père Noël, il m'a amené une raquette de tennis de Nadal. Parce que quand t'as pas le moral, pense à Nadal.
Ah.
Et
ok.
Enfin, j'adore le tennis. J'ai beaucoup fait de squash.
Ok.
Et le tennis, je trouve c'est plus technique, c'est passionnant. J'ai mis mon petit garçon cet été au tennis dans un club de tennis, donc il a pris des cours et moi en parallèle, je joue à côté. Et je trouve c'est hyper technique, c'est passionnant. Mais quel que soit les sports, je trouve que c'est bon. Certains sports qui sont pourris par le pognon, mais moi je trouve que le tennis, je rejoue au sable. D'ailleurs, le président du club tennis de sable, il joue avec moi, il me donne des cours, il me met des sacrés roustes. Du coup, je suis mauvais joueur.
Mais non, t'es mauvais perdant, toi.
Comment?
T'es mauvais perdant, toi.
Oui, je suis. Ouais. Tu sais, bon, sinon c'est Calimero, tu vois. Donc je râle un peu. Bon, au squash, régulièrement, je pétais mes raquettes.
Voilà. Okay. Comme ça, c'est dit.
Ouais, c'est fait, c'est dit.
mais c'est vrai que le tennis, tu vois, malgré les sommes d'argent monstrueuses, je regardais avec un copain là, il y a pas très longtemps, combien est-ce qu'il gagnait, et c'est vraiment des montants de dingue, ouais. Enfin, sur les 5-6 premiers, c'est dingue, surtout les 3 ouais. premiers, quoi. Mais c'est resté, je sais plus si on peut dire c'est resté authentique, mais il y a pas les dérives comme dans d'autres sports, quoi.
Donc, ça envoie quand même, hein. Enfin, ouais. Moi, à Arcachon, il y a eu une année, il y a eu le tournoi des légendes où il y avait Yannick Noah, Henri Lecomte et Mats Wilander qui jouaient.
Ok. Tu vois, incroyable.
Le tournoi des légendes. Et puis, c'était vendredi, samedi, dimanche. Et le vendredi, tu vois, c'était pas le week-end. Du coup, il y avait pas grand monde. Et mon pote de la mairie d'Arcachon, il m'invitait. J'étais avec mon petit garçon. Mais c'était hallucinant parce qu'on les voyait jouer là. Ouais. Tu sais, ils font les cons. C'est ça qui est marrant. Ils amènent les gamins avec des grosses balles de tennis. Et mon grand gamin qui est grand maintenant, mais qui est petit, t'allais jouer, il t'allait taper une balle avec Henri Lecomte, quoi. C'était génial, quoi. Ouais, et le soir, ils étaient ensemble au resto, là, tous ces tennismans, ils étaient pas chacun à bouffer dans le coin avec leur Walkman sur le quoi, tout avec les oreillettes, quoi. Ils étaient tous ensemble à faire une grande tablée à déconner, quoi. Ils déconnent sur le terrain, ils déconnent le soir et ils restent des très grands sportifs. J'ai croisé Yannick Noah, cet hiver, en grand bornant pour Guy Sankeur, tu sais, 24 heures de ski.
Ouais,
là,
ouais.
Il faisait un concert et j'ai dit, tu te rappelles, on s'est croisé une fois à Arcachon, il dit, ah bon? Donc, je parle comment qu'ils s'en souviennent. Mais voilà, ouais, non, mais j'adore le tennis, ouais, je trouve que c'est génial. Après, oui, il y a quand même de l'argent, ouais, mais moins qu'un autre ballon.
C'est vrai. Non, mais c'est ça que, ouais, je trouve beau, c'est que, effectivement, c'est resté, même aujourd'hui, un Nadal ou un Federer, ça reste des gens, assez accessible et assez et sympa, tu vois, qui n'ont pas pris le melon trop comme ça, tu vois. Même si ils vivent dans des énormes villas et que voilà, ils restent des gens, ça reste des gens cool, quoi. Y a d'autres sports que tu fais à part squash, tennis, un autre truc?
Non, je cours un peu, mais mal. j'ai promis aux gars parce que les gars ils font beaucoup de surf, tu vois. Donc moi j'en ai fait quand j'étais à Arcachon, tu vois, quand j'étais à Arcachon, donc j'aurais promis, j'en remettrai avec eux pour qu'ils se moquent de moi. Mais j'aime bien faire du sport avec les gars, avec tu vois Vincent, là on a fait du tennis ensemble. Je trouve que c'est sympa de partager, voilà, donc j'aurais fait un peu de surf avec eux. Bon, du ski, j'adore le ski. Voilà.
C'est un peu le moment où ils peuvent te botter le cul.
Ouais.
Pour se manger de la journée ou pas?
C'est ça.
Bah, ok, très cool. Je voulais pas mal aborder avec toi, tu vois, qu'est-ce qui se passe sur le bateau? Tu vois, comme je t'ai dit, j'ai eu de nombreux marins, tu vois, et navigateurs sur le podcast, mais tu vois, chacun a sa version, chacun son histoire, chacun a sa façon de le vivre. Et déjà, je te remercie parce que j'avais entendu une interview de toi où t'expliquais que à bord du bateau, tu portais des genouillères et t'étais quasiment tout le temps à genoux, bien que tu sois pas immense. Et
je te remercie. Ça c'est dit.
Non, mais
ça, tu vois, c'est les gamins qui me disent souvent quand ils me voient, ils me disent, ah, je te voyais plus grand. Bah désolé.
Non, mais c'est justement parce que tu le disais, mais tu mettais un casque aussi parce que tu peux te cogner tout le temps, ça bouge tellement que du coup sur le bateau t'as souvent un casque et c'est même des genouillères, je crois, parce que t'es tout le temps à genoux.
Alors les casques c'est obligatoire sur nos bateaux, bon tu le mets ou tu le mets pas, mais des genouillères, parce qu'attends,
les images qu'on voit à télé où vous êtes en train de naviguer, où vous êtes en train de prendre 40-50 nœuds et tout, vous êtes les cheveux au vent, quoi.
Mais ce que je disais à midi avec les partenaires avec qui j'étais, j'aurais simulé comment je suis à bord du bateau quand le bateau va vite. Je sais pas si t'étais encore arrivé.
Pas encore arrivé.
J'aurais dit c'est comme dans le métro, tu vois, t'es comme ça, Comme un dragster, quoi. Tu tiens, t'as des poignées partout, tu vois. C'est-à-dire, on met des poignées partout. Et t'es comme ça. Parce qu'il me dit, on voit les images. Ouais, le bateau, il vole et tout. Bah oui, il vole. Mais il retombe souvent. Donc, il vole. Mais bon. Ouais. Donc, des genouillères, parce qu'on est beaucoup à quatre pattes. On est à quatre pattes parce que quand t'es debout, bah, tu risques de tomber. Donc, tu vas me dire, vu que je suis pas grand, je vais pas tomber d'eau, mais quand même. Il faut imaginer aussi que si tu te blesses sur le bateau, t'es tout seul. Et il faut durer longtemps. Ouais. Les globes, c'est 3 mois. Donc, si tu te blesses, c'est un sacré handicap après.
Ouais, tu te fais une petite entorse, ça peut être vite, non, ou même un gros bleu, ou...
Souvent, on se pète les côtes, tu vois, ça, moi, ça m'est jamais arrivé, mais tu vois, Samantha, pendant le Vendée Globe, elle s'est pété les côtes quand elle a tapé une baleine. Ouais. Yannick aussi, c'est, alors, pété peut-être pas, mais fait les côtes. Et c'est un sacré handicap. Donc, c'est quoi, mais pour parler de toi, c'est la prévention. Donc, plutôt d'être debout, bah, à quatre pattes, mettre des poignées partout. Un casque, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de mettre le casque intérieur du bateau, parce que tu tapes la tête, ouais. Tu saignes et tout ça. J'ai une casque avec une visière intégrée, tu vois.
Ok.
Souvent en kite, ils ont ça, ou en buggy kite.
Ouais, je vois très bien. Tu vois, je vois très bien. Ouais.
Donc voilà. Donc ouais, t'as quatre pattes. Et moi, je dis la vie à bord du bateau. Finalement, c'est une vie comme un petit vieux, parce que tout est bien rythmé.
Ouais.
Contrairement à ce qu'on croit, c'est la liberté absolue quand tu pars, mais. On a des fichiers météo qui arrivent à telle heure. On a les positions des bateaux qui arrivent à telle heure. On sait la chronologie de toute la journée. On mange à des heures fixes.
Comme des horloges. Ouais.
On a un petit goûter, là, une petite collation l'après-midi, une collation la nuit, parce qu'on se dépense plus en mer qu'à terre, parce qu'on est tout le temps en mouvement.
Ouais.
Et les manœuvres, elles sont vraiment sollicitantes, tu vois. Et après,
j'imagine, à
tout. Il y a beaucoup d'imprévus.
Ouais.
Donc à partir de là, il faut avoir un cadre minimum.
Non mais j'imagine que on en rigolait ce midi parce que je te disais combien de calories tu brûles. Tu me regardais, ça c'est bien un truc de triathlète. mais c'est vrai que effectivement si t'es en permanence en train de ça secoue en permanence, que t'es en permanence en train de t'accrocher, que en plus t'es à c'est quoi la vitesse maximale que tu prends?
Tu fais des pointes à plus 30 nœuds, 35 nœuds quoi. Ça fait vite, 35 nœuds, c'est...
Ouais, c'est des vents, du coup, mais c'est des vents à quelle vitesse? Bah,
t'as plus de 50 nœuds, ouais.
Ouais, c'est des vents à 50 nœuds, ouais. C'est ça.
Et ce qu'il y a aussi, c'est que c'est inconfortable.
Ouais.
Et on est dans l'humidité permanente.
Ouais.
Donc, c'est en plus...
T'as froid, tu dois te réchauffer.
Ouais,
tu...
ouais, t'as froid, t'as chaud.
Tu gaines tous tes muscles.
T'as froid, tu vas faire une manœuvre d'une heure, mais tu transpires, t'es trempé.
Ouais.
Donc c'est vachement sollicitant, ouais. Et puis, intellectuellement aussi, c'est sollicitant parce que... avant de faire une manœuvre, il faut se la faire la manœuvre dans la tête avant d'y aller. Donc c'est pour ça qu'on s'entraîne beaucoup et qu'on essaye de faire le moins de conneries possible.
Ouais.
Parce que tu fais une connerie sur une manœuvre, tu déchires une voile, ou tu fais tomber la voile à l'eau, il faut la récupérer, ou tu te fais mal. Donc c'est beaucoup d'anticipation.
C'est ça la manœuvre la plus risquée à bord, c'est de changer la voile. Parce que vous avez plusieurs voiles avec des tailles différentes. En fonction de la force du vent, ça peut les déchirer ou ça vous peut vous aider à mieux prendre le vent et du coup aller encore plus vite ou réduire un peu. C'est une des manœuvres.
Parmi les manœuvres voiles les plus difficiles, c'est changer les voiles d'avant. On a droit à 8 voiles différentes. On a
8 voiles. Ok.
Les fameuses voiles en forme on appelle ça des spinnakers, c'est en forme de parachute là.
Ouais.
Tabarly à l'époque, il a essayé même des parachutes, tu vois, pour traquer son bateau. Donc c'était les premiers spi et voilà. Donc la plus grosse manœuvre, ouais, c'est changer les voiles d'avant.
Donc, et ça prend combien de temps?
Ben, ça prend tout du temps parce que ça prend plus d'une heure, quoi. Tout seul, en équipage, ça prend 20-25 minutes. En double, on va dire 25 minutes, mais tout seul, ça prend vraiment beaucoup de temps. Donc ouais. On apprend à les faire de plus en plus vite, mais aussi il vaut mieux les faire un peu plus lentement. En tout cas, moi, c'est mon état d'esprit, les faire plus lentement, mais sans risquer d'abîmer la voile ou de se faire mal. Après, c'est les manœuvres les plus risquées, il faut aller avant du bateau. Si tu fais une bêtise, bah, tu casses un truc. Si tu fais une bêtise, tu fais tomber la voile à l'eau. Et après, quand tu fais les courses, tu peux pas t'arrêter.
Ouais.
Quand tu fais le Vendée Globe, t'as pas droit aux escales. Si tu fais une escale, t'es disqualifié.
Ouais, donc.
Il faut penser à, ouais, c'est à cette endurance-là, quoi. Il faut penser à l'endurance du bonhomme, du bateau. Et aussi se dire que il faut partir avec tout, il faut penser à tout. Noël, le premier dedans, faut t'appeler le Père Noël pour qu'il vienne poser les cadeaux avant de partir et tout ça, quoi. Donc, ça fait un paquet de trucs à penser.
Bah, tu m'étonnes. Ça doit être, c'est sûr que c'est ça le plus dur finalement. C'est d'essayer de penser à tout, de tout anticiper, d'essayer de faire.
Je suis assez étonné que quand tu veux faire le Vendée Globe, il faut faire des courses de qualification, il faut prouver un paquet de choses. Je suis étonné qu'il n'y ait même pas une petite expertise intellectuelle, tu vois. Parce que on te dit il faut être givré pour partir autour du monde tout seul, je pense pas. Il faut être à peu près équilibré. Sinon, au bout de 15 jours, tu pètes un câble.
Ouais.
Si t'es pas bien préparé dans ta tête, tu pètes un câble. Donc, ça serait con d'abandonner au bout de 15 jours parce que t'es pas prêt dans ta tête.
Ouais.
Mais, moi, je me fais plein de penses bêtes avant de partir, hein. Ça paraît bête, mais aujourd'hui, avec tous les codes qu'on a de carte bleue et tout ça, si tu mets pas tous tes codes carte bleue avant de partir, sur une fiche, t'arrives au bout de 3 mois, merde. C'est quoi déjà mes codes?
Ah ouais, c'est à ce point-là?
Bah, ouais. Moi, ça m'est arrivé, alors pas au dernier Vendée Globe, celui d'avant, j'arrive du tour du monde, tu fais la conférence de presse pour les journalistes qui servent à rien, tu sais ce que c'est. Tu bois un coup, ça c'est plus intéressant. Et après tu traverses la route, mais t'as juste oublié un truc, c'est qu'il y a des voitures.
Ouais.
Ça paraît con de traverser la route sans regarder à droite et à gauche, quoi. T'as appris. T'es con, quoi. Que des petits trucs comme ça. Tu prends la voiture, mais attends, mais tu sais encore conduire. Tu conduis moins bien au bout de 3 mois, quand même. Donc
ouais,
il y a plein
sûr.
De petits trucs comme ça. C'est assez amusant au final, hein, mais bon. Hein.
Non, puis t'as aussi l'état de fatigue aussi, j'imagine, qui doit pas aider, mais
quand t'arrives, t'es tellement pris par l'adrénaline, l'excitation de l'arrivée qu'au final, tu couches tout le monde. T'es incouchable. T'es incouchable aussi parce que
parce que
t'es encore le sommeil fractionné, quoi. Ce qui fait que la première nuit que tu passes à terre dans ton lit, tu te réveilles. Putain, c'est bizarre, ça bouge pas. Ben oui, je suis dans mon lit. Alors que sur un bateau, ça bouge toujours un peu.
Ouais, bien sûr.
Donc c'est pas normal. Quand ça bouge pas, c'est pas normal.
Ouais, tu peux pas passer d'un sommeil polyphasique où tu vas dormir. Tu dors quoi, 20 minutes, 30 minutes,
ouais,
grand max,
une
demi-heure, trois quarts d'heure,
3-4 heures des fois. Dans les mers du Sud, tu peux dormir 2-3 heures d'affilée, c'est pas le problème.
Ouais.
Mais ça bouge toujours un peu.
Ouais.
Là, tu rentres à terre, ça bouge plus. Tu peux dormir 10 heures d'affilée.
Fantastique.
T'arrives pas, hein, pendant
quel
tout le monde. Et puis, moi, mon grand jeu, c'est que. Au bout d'un mois où j'arrive, je vais chez les copains, chez les gens, j'ouvre le frigo.
Oh,
c'est génial tout ce qu'il y a dans le frigo.
Ouais, parce que tu manges 100% lyophilisé.
Ouais,
quasiment.
Sur le tour du monde, tu manges 100% lyophilisé. Alors ma maman et ma sœur, elles font des petits bocaux, tu vois, pour les dimanches, mais on n'a pas de frigo.
Ouais.
On n'a pas, tu peux pas te faire un laitage, tu peux pas te faire un yaourt, tu peux pas faire tout ça. T'as pas de frigo, t'as pas de four micro-ondes, t'as pas de friteuse. Alors quand je dis ça aux gamins, ah, pas de friteuse, t'es fou, quoi.
Mais ouais, non, mais c'est dingue, on se rend pas compte de tout, quoi. Et même là, ce midi, on parlait du désalinisateur.
Ouais, c'est ça.
Parce que justement, on est du coup au Sable d'Olonne, il y a une course qui part avec des grands fêlés, quand même,
ouais.
On peut le dire. On peut. Des vrais marins, qui font, le tour du monde. Mais comme dans les années 1910, allez.
C'est Joshua Slocum qui a fait ça.
Ouais.
C'était début du siècle. Après, en 1968, ça s'appelle la Golden Globe.
Ok.
C'est sur initiative d'un journal et du coup, c'était le premier qui a gagné, c'est Robin Knox Johnson, un Anglais.
Ouais.
Mais Bernard Moitessier était en tête.
Ok.
Et il a pas fini le parcours, c'est-à-dire qu'après, au niveau du Cap Horn, au lieu de remonter l'Atlantique, retourner en Europe pour sauver son âme, il a continué. Il a fini en Polynésie, c'est-à-dire qu'il a fait un tour du monde et demi. Un truc aujourd'hui, ce serait irréalisable parce que bon, plus t'as des sponsors et tout, et lui pour sauver son âme, Bernard Moitessier qui est un gars extraordinaire, et puis il a raconté son histoire admirablement. Pour sauver son âme, il a continué, donc il a pas fait un tour du monde, il a fait un tour du monde et demi. Et du coup, il y a la réplique de cette course avec les mêmes bateaux, des vieux bateaux, pour le coup des 36 pieds quoi, qui font 10 mètres 50, quoi.
Ouais,
c'est petit. Et ils partent à l'ancienne. Donc, sans pilote automatique performant. Sans dessalinisateur. Et sans tout.
Sans GPS. Sans électricité, en fait.
Sans téléphone satellite.
Uniquement.
Ils doivent envoyer juste un message de sécurité une fois par semaine. Ils peuvent pas appeler à la famille. Nous, mine de rien, sur nos bateaux modernes, on a la WhatsApp, pour Noël, on peut faire une visio, on peut, voilà, s'écrire, et puis ça, se tenir au courant de ce qui se passe à terre. Eux, ils coupent court. Et eux, c'est avec des bateaux qui vont vraiment pas vite.
Ouais.
Eux, ils vont mettre 6 mois ou 9 mois pour faire le tour du monde.
Ouais. c'est dingue.
C'est des grands fêlés, mais c'est assez marrant parce qu'il y a des profils différents. J'ai rencontré un Américain de Key West, tu vois.
Ouais.
Donc, le digne héritier de Hemingway.
Okay.
Qui part. Donc, il y a vraiment des profils différents. Il y a Damien Guillou qui est sponsorisé par PRB, qui est un super compétiteur. Qui a fait du Figaro et tout, qui a beaucoup navigué en IMOCA comme nos bateaux du Vendée Globe, et là il part sur un projet comme ça. Donc là c'est des vrais aventuriers.
Ouais.
Mais pour moi eux ils sont sacrément fêlés.
mais tu vois, c'est génial, tu vois. Moi, je découvre cette course grâce à toi, quoi. D'ailleurs, tu vois, ça amène un peu sur un sujet. On l'a pas dit, mais t'as quand même, je l'ai pas dit jusque là. Je mettrai sûrement dans l'intro, mais t'as un record. T'as un record, ouais. Justement, d'avoir terminé 4 Vendée Globe consécutifs. Tu vas aller chercher le 5e. T'as quand même. J'avais noté toutes tes stats parce que j'ai quand même fait mes devoirs.
Je ne vais pas dire trop de conneries. Hein.
19 passages de l'Équateur, 3 participations à la route du Rhum, la 4e arrive bientôt, 8 transats Jacques Vabre, dont 6 terminés.
Je vais pas chercher à finir un 5e Vendée Globe parce que je recherchais. C'est aller au bout de moi-même et faire un 5e Vendée Globe pour le faire bien. Je suis pas ça pour entrer dans le Guinness des records. Le Vendée Globe, il y a pas une longue histoire parce que c'est que depuis 89.
Bien sûr.
Et aussi il y a de plus en plus de pourcentage de finishers parce que mon premier Vendée Globe, j'ai fait en 2008, on était 30 au départ, on était 12 à l'arrivée, je crois. Donc tu vois le truc. Il y a eu dès les premières nuits, on s'est fait défoncer, il y avait la tempête et tout. Mais je fais pas ça parce que pour entrer en Guinness des records ou faire des podcasts extraordinaires. Mais non, c'est parce que je suis passionné. Ouais. Et je fais ça parce que aussi, j'ai changé de bateau, j'ai un bateau fabuleux qui était l'ancien bateau de Samantha Lévis, qui est un bateau au niveau technologique avec des grands foils parce que ça va vite, ça m'éclate. Moi, ça m'éclate, mais ça éclate les gars, ça éclate aussi. Certains des partenaires, ils voient la différence, tu vois, entre les bateaux. Donc, j'ai la chance et le privilège d'avoir fait 4 Vendée Globe, d'avoir fini 4. Oui, c'est sûr. Je suis pas le 5e pour entrer dans le Guinness des records.
Mais bien sûr.
Mais c'est vrai que ça donne un petit confort par rapport aux partenaires. Ouais. Je veux dire pourquoi? Parce que
ils sont sûrs de terminer.
Non, parce qu'il faut être sûr de ça. Faut pas puter au plus haut que son cul. Mais
d'ailleurs, statistiquement, les statisticiens diraient que t'as aucune chance de terminer. Ouais. Si on en suit les.
Alors je t'ai raconté un truc.
Les maths proba. J'ai fait de la proba moi à l'école, tu vois. Donc.
Alors je te défonce après, tu vois.
Vas-y. Non mais je voulais juste dire, tu vois, je te poserai la question après, mais on termine sur les maths et les proba. Je te poserai la question après de à quel point la voile a changé, parce que tu parles de WhatsApp, j'imagine que quelqu'un en voulait pas. Mais vas-y, excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais. Mais
non, mais
fais-moi un retire.
On parlait des finishers et tout ça. Ouais. À mon deuxième Vendée Globe, un journaliste vient me voir. Il me dit, tu sais, j'ai calculé Arnaud, t'as 30% de chance de finir le Vendée Globe.
Avant le deuxième
que j'allais finir, ouais. Donc bon, ok. Et ça m'a marqué parce que je trouve que c'était pas très judicieux deux jours avant le départ de me dire ça. Et après, je me suis rappelé mon histoire personnelle. Ou à 17 ans, quand j'ai eu ma fameuse leucémie, j'ai su bien plus tard que j'avais 30% de chance de m'en sortir. Donc en fait, quand t'as 95% de chance d'une chose, t'as toujours les 5%. Et là en l'occurrence, tu vois, j'en suis sorti. J'ai fini mon deuxième Vendée Globe. J'ai tellement fini mon deuxième, j'ai fini mon troisième, mon quatrième. Donc en fait, c'est statistique, on s'en fout. Donc ça calme. Non, faut pas s'asseoir là-dessus, mais en tout cas,
c'est une très belle réponse, tu vois.
Ça donne aussi que tout est possible dans la vie.
Exactement, tu vois. Moi, j'adore la phrase. Il ne savait pas que c'était impossible, alors il l'a fait.
Ouais. Ouais.
Et j'aime bien justement cette phrase parce que elle va largement au-dessus des stats, quoi.
C'est clair. Mais c'est assez amusant après coup, tu vois. Après. Ce 5e Vendée Globe, oui, forcément, j'en rêve. Mais j'en rêvais avec un bateau comme ça. Au quotidien, naviguer avec un bateau tel qu'on a aujourd'hui, on n'a pas construit un nouveau bateau, on a un bateau fabuleux. On a un bateau qui a une histoire forte, tu vois. Samantha, elle court pour Initiative Cœur, tu vois, pour sauver des enfants, et c'est chouette.
Ouais.
Elle m'a laissé son petit Lego, elle a le logo à son effigie dans le bateau, et elle a expliqué à mon petit garçon qui a 5 ans et demi, qu'elle sera toujours là à bord du bateau pour me surveiller. Et tu vois, c'est chouette, cette histoire humaine aussi, tu vois, qui nous lie. J'ai traversé l'Atlantique pour amener bateau avec elle et Nicolas Luneven. Et c'est chouette, quoi. C'est pas juste j'achète un bateau et salut, tu vois.
Ouais.
Là, l'écrit va m'accompagner parce qu'elle va faire... ma compagne va faire un coussin à billes comme avait fait Samantha. Et voilà, il y a toujours un lien, quoi. On est toujours attaché à nos bateaux, mine de rien.
Ouais.
Et ça, c'est quelque chose de chouette, surtout un bateau qui a... une telle histoire. Donc moi j'y crois beaucoup aux histoires de vie, aux histoires humaines et j'y suis attaché.
OK. Comment ça se passe quand on vend un bateau, tu vois en plus toi c'est particulier parce que toi tu es le contrairement à beaucoup d'autres, tu as créé ta propre structure à toi.
Ouais.
Bon, je...
Est-ce que tu peux... Je suis armateur de mon bateau. C'est-à-dire que je suis propriétaire de mon bateau. Alors, ils vont se dire, ah ouais, il est pété une boissière. Non, non, j'ai fait un montage financier avec la banque, comme quand t'achètes une maison. Et là, j'ai dit, voilà, j'achète à crédit un bateau de course. Derrière, j'ai des rentrées d'argent, les sponsors, puis deux, trois activités que je fais en parallèle. Mais c'est moi qui suis gérant de ma structure. J'ai pas d'associé, je suis tout seul. C'est moi qui gère l'équipe.
C'est toi qui fais les virements à la fin du mois.
Ouais, c'est ça. Bon, j'ai un ami d'enfance qui m'aide quand même pour ça, qui est comptable d'origine. Ouais. Ouais, mais c'est moi qui gère tout. Et j'aime bien ce côté-là aussi. À mon premier Vendée Globe, je me sentais pas prêt là aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, depuis quelques années, je trouve que ça donne une richesse aussi au projet. En tout cas, moi, personnellement. Ouais.
Parce que t'as plus de liberté sur quoi et t'as quelles contraintes en plus?
Alors, j'ai plus de liberté au niveau du bateau, du choix du bateau, du choix du programme. Ouais. Parce qu'avant le Vendée Globe, qui est tous les 4 ans, il y a tout plein de courses. Donc, évidemment, il y a l'Euro du Rhum, mais il y a plein d'autres courses. J'ai le choix technologique. Je fais ce que je veux de l'argent de mes partenaires. Je peux acheter plus de voiles ou moins de voiles. Ou voilà. Les contraintes principales, il faut pas rêver, c'est que ça met une petite pression
supplémentaire.
Parce que si
t'es représentant légal,
qui va me démerder. Et ça met une pression aussi au quotidien parce que ça me donne plus du travail, quoi. Ça me donne plus de travail, entre guillemets, au quotidien. Voilà, c'est gérer une structure, hein, comme un artisan classique. Hein.
Ouais.
Mais quand tu discutes avec un dirigeant d'entreprise, tu partages pas la même chose parce que t'as pas 300 salariés. Mine de rien, tu sais ce que c'est, quoi. D'avoir des problèmes humains, de salariés, des problèmes techniques, des problèmes économiques, tu vois, ce qu'on a vécu il y a 4 ans, enfin, il y a quelques mois avec le Covid et tout ça. Voilà, donc du coup, moi, je trouve que ça donne une richesse supplémentaire au projet. Moi, je trouve que c'est passionnant.
Ouais.
Je trouve que c'est intéressant. Et ça permet de relativiser aussi. Voilà, je suis pas un gosse de riche qui utilise l'argent du sponsor et qui dépense et qui va taper à la porte au bout de 6 mois pour dire « Ah, j'ai cassé ça, tu m'en donnes d'autres ». Moi, je me suis toujours engagé, depuis que je fais mes projets, à si jamais je casse un truc, à pas taper à la porte du DG pour lui dire bah, « J'ai cassé un truc, hein. Un papa, tu me donnes de l'argent hein. ». Comme le gamin qui va jouer au club, qui va un autre jouer. Non, non, j'assume mes cases, j'assume mes choix, et si jamais j'ai des problèmes, c'est à moi de me débrouiller en trouvant d'autres partenaires ou en trouvant d'autres solutions. Et de ce côté-là, je trouve que c'est intéressant, et c'est intéressant aussi de le partager avec l'équipe qui m'accompagne. Parce que même si c'est pas eux qui gèrent, ils se sentent concernés aussi.
Ouais, tout le monde a beaucoup plus de responsabilités. Voilà. Et ils savent la pression que t'as sur les épaules, quoi.
C'est ça.
Ouais.
Alors c'est pas Ferrari, tu vois. Mais par contre, on a un super bateau et tout ça. Mais, je dis souvent en rigolant, c'est un projet participatif, tu vois.
Ouais.
C'est-à-dire que chacun amène sa pierre à l'édifice, mais chacun aussi est concerné par les compétences qu'ils amènent ou les, on est humain, on fait tous des bêtises et quand on fait des bêtises, on se le parle entre nous, on répare nos conneries, enfin collectivement oui, parce qu'on est une équipe et ce côté-là, franchement, c'est super intéressant.
Ouais, ok. Bah écoute, félicitations. Tu vois, tu m'as fait découvrir ça. Je pensais que tu vois, c'était toujours le même modèle, justement avec avec les sponsors, que ça marchait toujours de la même façon. Il y a beaucoup d'autres marins qui font comme toi.
Alors certains d'autres marins. Ils sont actionnaires, ils ont d'autres actionnaires, ils ont le partenaire qui est actionnaire et tout ça. Moi honnêtement, la question s'est posée avec ce projet-là parce que quand même ça prenait une ampleur. Et puis l'un dans l'autre, voilà. Donc je crois qu'il y a Eric Bayon qui est armateur. Certains autres projets, c'est un mécène qui a acheté le bateau et un sponsor qui a l'affichage. Voilà. Il faut imaginer que nos bateaux quand même c'est des investissements, quoi. Après, à terme, tu le revends, tu perds un peu d'argent, mais voilà. Moi, l'argent que je perds, entre guillemets, c'est l'argent qui est accumulé tous les ans par les partenaires.
Ouais.
Mais ça responsabilise. Après, il n'y a pas beaucoup d'autres projets comme moi, non.
Ouais. Ok.
Enfin, sans prétention, hein. Mais c'est sans prétention, il n'y a pas que des avantages, quoi.
Ouais.
Mon père, ça l'inquiète au quotidien.
Putain, mais t'imagines l'entrepôt en feu. Il y a des trucs comme ça qui te font flipper. Ouais. Mais c'est vrai que ça a créé de l'empathie. Enfin, en tout cas, chez moi, de l'empathie pour toi. Comme je t'avais dit, j'ai monté plusieurs entreprises. Tu vois, j'ai avec des salariés et tout. Et je savais déjà en parlant, c'est un peu en parlant avec Alan, parce que Alan avait parlé au micro vraiment des montants, de un peu de cette partie cherche de sponsors et tout, de comment est-ce qu'il était organisé. Je me suis dit, ah ouais, c'est quand même, c'est des athlètes de haut niveau, mais c'est aussi des entrepreneurs, quoi. Ouais. Il y a un vrai projet à entreprendre. Et quand je t'entendais parler de ça, ça m'a fait me dire, ok, encore plus pour le coup là, Arnaud, c'est un entrepreneur.
Bon, ouais, on est, enfin oui, vous êtes par la loi un peu entrepreneur. Benjamin Dutreux, qui est à côté, Guillaume Environnement, il est entrepreneur aussi parce que il a acheté bateau avec des actionnaires, il a monté un chantier avec son frère à tellement à côté. Yannick Vestaven est entrepreneur parce qu'il a monté sa boîte Wet & Sea d'hydrogénérateur. Ouais. Et là, il a gagné Vendée Globe, il a construit un bateau. Pareil, il est co-armateur du bateau. Voilà. Mais moi, je trouve ce profil-là est intéressant aussi parce que proche des techniciens et proche des partenaires. Ouais. Et ça, c'est chouette. C'est pas juste la danseuse qui vient casser le bateau et pleurer parce qu'il est cassé ou « Oui, mais marché, bravo, t'as la coupe et salut. » Non, c'est... voilà. Mais en moyenne, en voile, il y en a très peu des... Juste le pilote qui vient et qui met le smoking et qui va naviguer, quoi.
Ok, je vois très bien le genre.
Et l'avantage aussi, c'est qu'en bateau, contrairement à d'autres sports, ça coûte tellement cher, mais c'est pas nous qui coûtons cher, en fait. C'est l'outil qui coûte cher. Le bateau coûte cher, les voiles coûtent cher, l'assurance, comme tu dis, du bateau coûte cher,
les manœuvres
quand même. Donc voilà. Ouais. Donc au final, surtout quand t'es genre de ma société comme moi, ben celui qui se paye en dernier, c'est le skipper, chef d'entreprise et tout ça. Mais je suis pas à plaindre, je suis pas mon Calimero.
ouais, non, mais je vois très bien. Mais en tout cas, félicitations. Et je suis curieux. Et du coup, ouais, la vente d'un bateau, comment ça se passe? Tu vas voir, du coup, le bateau appartient à une structure. C'est un actif d'une autre société. Et toi, tu vas le voir et tu vas dire, ok, bah, j'ai monté ma société. T'empruntes de l'argent à la banque. Tu vas voir cette deuxième société. Tu files les garanties. Et puis,
alors, Le bateau, la vie du bateau avec le skipper et avec la campagne Vendée Globe, tu vois. En général, après Vendée Globe, tu changes de bateau.
Oui.
Pour un bateau plus performant. Donc, c'est un petit milieu la voile, ça se sait. Mon précédent bateau, par exemple, j'avais vendu à Manu Cousin, qui est maintenant mon voisin, tu vois, qui est juste à côté, qui est un Normand, tu vois, qui est venu s'installer au sable. Il avait déjà un partenaire, un sponsor, pour un projet plus petit, des 40 pieds, des bateaux de 12 mètres. Et je lui dis, mais si tu veux faire le Vendée Globe, ton sponsor, amène-le au sable. Qui voit le départ du Vendée Globe. Tu crois? Non, mais insiste vraiment. Fais-lui visiter mon bateau. Mais moi, je pensais pas à l'origine vouloir lui vendre mon bateau. Hein. C'est juste pour que lui puisse faire le Vendée Globe. Et du coup, il est venu au départ du Vendée Globe en 2016. Il a trouvé ça génial, son sponsor. Manu Cousin était motivé et tout ça. Et du coup, après le Vendée Globe, il a dit, ben, pourquoi on ne rachèterait pas le bateau? Et on continue comme ça. Donc, c'est ma structure qui a vendu le bateau. Ouais. Pour vendre le bateau, il faut que le crédit soit payé. Donc, c'est pas toujours le cas. Mais ça, tu fais une avance, avec la banque, ça se fait. Le Crédit Agricole, ils me suivent depuis plusieurs campagnes Vendée Globe. Donc, voilà, tu fais, une avance de trésorerie, tu vends le bateau. De ce que tu récupères de la vente du bateau, tu le réinvestis dans un prochain bateau. Et c'est reparti pour 4 ans. Et la banque te demande, évidemment, quelques contrats de sponsoring pour être sûr que tu es capable de payer le bateau.
Ouais.
Donc j'ai fait ça avec le bateau avec Manu Cousin, j'ai fait ça avec mon précédent bateau que j'ai vendu à Rodolphe Céfo. Et pour faire le lien entre les deux, j'ai fait une course en double à chaque fois avec j'ai fait la Jacques Vabre. La Jacques Vabre,
okay.
Pour juste après le Vendée Globe.
Ouais.
La nuit du Vendée Globe. Du coup, ça fait une sorte de passation technique et puis sportive. Et toi, ça te permet aussi de te mettre un peu raccord avec la banque et raccord avec les partenaires pour repartir avec une nouvelle campagne de Vendée Globe. Donc le bateau de Samantha Davis qui appartenait à Calagne à Initiative, donc j'ai racheté à eux. Et du coup, une partie de ce que j'ai investi dans ce bateau-là, c'est ce que j'ai vendu de mon ancien bateau.
Ouais,
c'est un investissement après. Hein.
Ouais, bien sûr.
Après,
bien
voilà, sûr. Tous les mois, tu payes un peu. C'est grâce aux rentrées d'argent, notamment des partenaires, que tu peux payer tous les mois, quoi.
Ouais, bien sûr, bien sûr.
Mais bon. Mais sentimentalement parlant, en revanche, c'est un petit déchirement quand tu quittes ton bateau.
Ouais, je viens de croire.
Là où je suis plutôt heureux quand je vois Manu Cousin, ce qu'il a fait mon ancien bateau, il a profondément modifié. Et le bateau, il a extrêmement évolué par rapport à ce qu'il était. Et ça fait réellement plaisir, tu vois. De voir ton ancien bateau qui a évolué de belle manière, voilà, ça fait sacrément plaisir.
Ouais.
Quelqu'un même qui... si au quotidien, t'es là, Je l'aime bien ce bateau-là quand même. Il y a une histoire d'amour hein, entre son bateau et...
Bien sûr, toujours.
Et le skipper, les Anglais ils se disent...
Dans tous les sports mécaniques, t'as une histoire de...
Les Anglais ils disent « she » pour un bateau.
Ouais.
« She is lovely ».
Ouais.
Le bateau c'est la maîtresse hein, d'un navigateur. Hein. Ou d'une navigatrice. Hein. Enfin, quand je dis maîtresse, tu vois, on a beaucoup d'affinités. On passe tellement de temps et puis on est tellement proches.
Ouais. C'est beau, c'est vachement beau cette métaphore, je trouve. Mais ça me parle.
T'en parleras à beaucoup de navigateurs. Je pense qu'Alan te dira la même chose. Yves Blévesque te dira la même chose. On est proches de nos bateaux. C'est eux qui nous amènent, hein, autour du monde. C'est eux qui nous amènent faire la route du Rhum. Au final, nous, on fait quoi? Ben, on fait que choisir les voiles, appuyer sur le bouton, ou mal appuyer sur le bouton pour aller vite, mais, on est extrêmement attachés. C'est pour ça qu'on pose des questions à Samantha. Et ces préparateurs en technique, tu vois, sur bateau, ils nous répondent aussitôt parce qu'ils sont attachés à ce bateau-là aussi.
Ouais.
C'est une belle histoire de vie, hein, vraiment.
Ouais. Et du coup, je me demandais, puis après on peut clôturer ce sujet-là, mais j'avais entendu que limite pendant que vous étiez sur le Vendée Globe, vos équipes étaient déjà en train de négocier ou de chercher qui veut se débarrasser du bateau, machin, et que c'était à ce moment-là, pendant que vous êtes sur la mer, que joue un peu le mercato avec les équipes, quoi, entre guillemets.
Ouais, carrément, ouais.
Mais toi, t'es au Vendée Globe. Bon, maintenant, vous avez les communications et tout. Mmh. Mais tu peux arriver, t'arrives au Sable d'Olonne et on te dit « Ah, mais en fait, ça va être tel bateau que tu vas avoir pour les 4 prochaines années. » C'est un peu presque comme ça que ça se passe, je caricature un peu, mais...
Moi, ça se fait pas comme ça, parce que c'est moi qui achète.
Déjà, t'en parles avant, j'imagine, mais...
Et on discute pas mal entre skippers, tu vois. Et après le Cap Horn, tu vois, c'est... En gros, le Vendée Globe, c'est 3 mois. Mmh. Un mois pour descendre l'Atlantique, ouais. Du Sable d'Olonne jusqu'à Cape Town, Afrique du Sud. Donc, ça s'arrête pas, hein, ça continue. De Cape Town jusqu'à Cap Horn, un mois. Ouais. Et le dernier mois... C'est la remontée atlantique qui est souvent très longue.
Ouais.
Qui est longue parce que on nous dit après le Cap Horn, bon, t'as fait le plus dur, c'est facile. C'est pas forcément facile. Et du coup, en 2016, j'ai beaucoup communiqué.
T'as moins de vent aussi, non?
Il y a moins de vent, c'est irrégulier. Oui, des fois il y a pétole, enfin t'avances pas. Donc du coup, tu réfléchis et ce qui aide à réfléchir et tout ça, c'est se projeter vers un autre projet. Du coup, j'ai pas mal discuté en 2016 avec Fabrice Amédéo et du coup, on discutait quel bateau t'achèterais, quel bateau est disponible. Et puis
donc, vous êtes sur le bateau en train de terminer la course et vous êtes sur WhatsApp. En train de vous envoyer des petites notes vocales. Bon, allez, je te fais une offre.
Ça va même plus loin. Tu discutes aussi avec ton sponsor.
Ouais.
Bon, ben, on est chaud. Hein. Moi, je suis chaud. Je continuerai bien. Hein. Ah ouais, attends, déjà fini. Ouais, mais bon. Moi, en général, même avant le départ. Même avant le départ du Vendée Globe, je présente des projets pour l'après. Parce que mine de rien, tu vois, Vendée Globe, t'arrives fin janvier, début février. Les projets de communication, en général, ils sont ficelés novembre, décembre.
C'est les budgets.
Il faut commencer à en parler.
Ouais.
Si t'attends, tu dis on verra bien, c'est chaud.
Temps que le projet soit monté, ouais, c'est foutu.
Donc tu réfléchis au bateau, tu réfléchis avec tes partenaires ce que tu peux proposer. Et c'est chouette parce que du coup, à l'arrivée, comme tu dis, bah des fois... Tu fais voler la vedette, hein. Louis Burton est très fort pour ça, hein, parce que là, il fait 3e Vendée Globe. Il a acheté Occitane à peine arrivé, un autre bateau. Et avant le départ du Vendée Globe d'avant, il avait acheté Banque Populaire au départ du le bateau. Il était pas encore parti en course. Il avait pas encore gagné la course. Il savait pas qu'il avait gagné, hein. Il a mis une option d'achat pour le bateau. Il avait pas encore fait le tour du monde. Donc, tu vois, Louis Burton aussi, c'est un super profil là, qui est manager, qui est entrepreneur et qui est passionné de beaucoup de sport, sport automobile aussi, tu vois. Et du coup, ouais, il faut être un peu visionnaire ou un peu ambitieux ou un peu opportuniste, quoi.
Ouais.
Donc,
faut savoir faire des offres, quoi.
Moi, pour le coup, ce bateau-là, à l'origine, Initiative Curl, le bateau n'était pas à vendre, tu vois. Et j'ai pas fait une proposition pour piquer le bateau de Samantha, mais j'en discutais avec David Sino, le chef de projet. Je dis, je recherche un bateau. Mais on discutait comme ça, comme je te parlais avec toi, tu vois, en camarade, en copain, tu vois, mais aussi en collègue, tu vois. Putain, mais c'est incroyable ce qui se passe avec les bateaux, ils sont tous vendus et tout, ouais. Il me rappelle 15 jours plus tard, il m'a dit, nous, notre projet est en train d'évoluer, on va peut-être construire un bateau, il sera peut-être à vendre un bateau.
Ouais.
Et il se trouve que l'histoire d'avis fait aussi que ce partenaire-là, Initiative Cœur, j'avais vendu à Canaveranda numéro 2 à Initiative Cœur. Donc le DG d'Initiative m'appelle, il me dit écoute Arnaud, si tu veux le bateau il va être à vente, mais on attend un peu, on te laisse un petit peu de temps pour monter ton projet, pour acheter le bateau. Un peu de temps c'est 15 jours. Ok, mec. Mais voilà, encore une fois.
Pourquoi te laisser si peu de temps?
Parce qu'en fait, eux, ils avaient besoin aussi.
De faire entrer du cash.
Voilà. Donc, ils m'ont pas laissé 15 jours.
Parce que eux, ils sont en train d'acheter quelque chose. Donc, ils mettent leur bateau en. Une fois que eux, ils ont trouvé leur bateau, ils mettent leur bateau en vente.
C'est ça.
Et ils veulent que t'ailles au plus vite pour eux aller au plus vite. Parce qu'ils peuvent le perdre.
Ils voulaient être sûrs que je sois capable de l'acheter.
Ouais.
Et moi, j'allais pas dire oui.
Si t'es pas sûr en 15 jours, t'es pas sûr en 3 mois, quoi.
Ouais. En 15 jours, je peux pas faire le virement. Mais en tout cas, en 15 jours, j'ai pu dire oui, je vais accorder mes partenaires. Oui, j'explique à mes partenaires ce que c'est, quel bateau. Parce que, mine de rien, l'histoire de vie des bateaux, c'est intéressant pour la communication. Donc voilà, acheter en 15 jours, c'est pas beaucoup. Mais bon. Ça aussi, ça s'est hyper bien passé, tu vois. Humainement parlant, tu vois, c'est des gros chefs d'entreprise, ça s'est très bien passé, tu vois, et c'est chouette aussi, quoi.
Ouais. Ouais, donc, c'est sûr que
il peut y avoir beaucoup d'argent, mais on peut être sympa aussi, tu vois.
Ouais. Non, mais voilà, parce que la principale valeur, c'est effectivement la mécanique, et c'est un actif d'une société, et c'est vrai qu'un chef d'entreprise, il le comprend bien, et du coup,
tu vois, naturellement, vous aussi. On fait le contrat de vente du bateau, et puis, après, Jacques Vabre, moi, mon bateau, il restait aux Antilles, mon ancien bateau, du coup. Et je dis, mais moi, ça me brancherait bien, faire un 3-3 tours pour commencer à apprendre à naviguer dessus. Ouais, mais ça s'est fait comme ça, tu vois. On l'a pas mis en annexe de contrat, comme quoi, j'imposais que je sois à bord, ni rien, et eux non plus, ils m'ont pas demandé de le mettre. Et de même que, naturellement, ils ont dit, l'équipe technique, il faut que démonte un peu le bateau avec vous. Parce que vous avez gagné du temps, et eux aussi, mine de rien, ils vont limiter, entre guillemets, les emmerdes, sinon, tous les 4 matins, on les appellerait après. Donc, du coup, voilà, c'est en bonne intelligence, quoi, ça s'appelle, je sais pas. Et c'était chouette, parce qu'à l'arrivée, là, 30 tours, les équipes étaient là, Samantha, elle a bien les cookies, donc, avec Annie Caline, on a fait un gros cookies pour remercier Samantha, on a fait une soirée ensemble où il y avait mes parents, où il y avait tout familial, quoi.
Ah ouais.
Mais c'est ça aussi, l'esprit de la voile, c'est ça qui est important. Ceux qui connaissent moins la voile, on voit les bateaux voler, on voit les bateaux se tirer la bourre. Mais une fois que t'es à quai, que t'es arrivé, il y a le premier, il y a le dernier, mais au final, on est tous des êtres humains, on est tous normaux, quoi.
Ouais. Ouais, bien sûr.
Contrairement à... On le dit ou pas? Contrairement au foot. À part les Girondins de Bordeaux, encore une fois.
Ceci n'engage que toi.
J'assume complètement, je peux te dire. Quand je vois ce que c'est, ça me fait mal au cœur. Je suis premier à taper la balle avec mes gamins ou avec les copains, tu vois, c'est sympa, mais c'est dommage, je trouve. Ça pollue trop, je trouve. Voilà.
Ah ouais, c'est clair. Et puis il y a plein de trucs. Je te raconterai une anecdote après hors antenne.
Alors moi, je te veux dire, et je dis vraiment, j'ai écouté l'interview de Vincent Landon le jour.
Ouais.
Et franchement, c'est génial ce qu'il a dit. C'est que la Coupe du Monde de foot au Qatar.
Ouais.
C'est pas le FFV à boycotter, mais ce serait les joueurs même à boycotter, de pas y aller. Il faut avoir les tripes pour ne pas y aller, mais n'empêche, dans les conditions dans lesquelles ça va se passer et ce qui s'est passé jusqu'à maintenant et ce qu'on sait pas, hein, parce que
on va encore apprendre des choses.
On va encore apprendre des choses. Donc
tu sais combien de d'ouvriers sont morts là sur le chantier?
Non, mais
ça se compte en plusieurs milliers.
Ouais.
C'est un truc de ouf. Plus de, je crois que c'est 2 ou 3 000 personnes sont mortes pour qu'on aille jouer au foot.
C'est...
Alors qu'il y a des stades qui existent déjà partout dans le monde, tu vois. C'est
malheureux. Et puis c'est un peu ouf. Les terrains et tout ça, mais il faudrait que nous, joueurs de foot, ils aient le courage de dire on n'y va pas. C'est pas évident, hein, c'est sûr. Mais je trouve que Vincent Landon, son interview était super.
Okay.
Il a dit avec du cœur et il a entièrement raison. Mais bon.
Ouais.
Et puis en plus. Quand tu vois, on climatise des terrains, mais c'est ridicule, quoi.
Ouais.
Est-ce qu'on sera assez courageux pour ça? Moi, déjà, je regardais pas trop, mais je peux dire, je vais pas regarder du tout, là, c'est sûr. Mais tu vois, avec les gars, là, deux de mes gars, ils sont passionnés de foot, des fois, ils me branchent, des fois, on va chez moi, on fait soirée pizza, on se fait nous-mêmes pizza, on regarde PSG, quand ils vont pas en finale, c'est génial, tu vois. Mais voilà, ça passe, on passe une
bonne soirée, ouais.
Une bonne soirée. Bon, la semaine d'après, ils sont plus là, mais bon, c'est comme ça. Mais là, c'est une catastrophe, je trouve.
Ouais. Bon,
c'est la vie. Boum, coup de gueule, bam.
Bam, claque. T'as raison, c'est le moment, on sort les crocs, on fusille tout le monde.
Pourtant, je peux rien faire.
Mais je voulais terminer l'interview avec une touche d'amour, comme je t'avais dit.
Ah ben moi, ma vie, c'est l'amour avant tout. Hein. Bah ouais, parce l'amour, c'est la tolérance, et il faut aimer les gens, il faut qu'on s'aime. Tu vois, si on s'aimerait, si on s'aime plus, il y aurait pas ce qui se passe au Qatar, il y aurait pas la guerre en Ukraine, il y aurait pas toutes ces, il y aurait pas Trump.
Bien sûr.
Il faut savoir s'aimer aussi.
S'aimer soi.
Hein?
S'aimer soi, tu veux dire?
Non, il faut savoir s'aimer soi-même pour aimer les autres, quoi. C'est la tolérance, tu vois. Tout à l'heure, t'arrives en train, je vais pas te faire venir à pied. Je t'ai envoyé ma compagne.
J'étais prêt pour venir à pied.
Bah non, mais ouais, mais c'est ça, il faut, ouais. L'amour.
Ouais. Mais non, parce que tu vois, on a parlé amitié, on a un peu parlé business, on a parlé maîtresse, tu vois, tout à l'heure. Et tu vois, moi, je suis persuadé que il y a un dicton qui peut effectivement sembler un peu sexiste, qui dit derrière chaque grand homme, il y a une grande dame. Mm. Je pense que derrière chaque grande personne s'en cache une autre, ou en tout cas un partenaire de vie souvent. Et je vous ai vu, j'ai vu deux personnes folles amoureuses l'une de l'autre, tu vois, sous mes yeux. Et vraiment, tu vois, et je m'attendais pas à ce qu'on parle de ça du tout aujourd'hui. Donc j'improvise là, tu vois. En tout cas, vous avez l'air hyper équilibré, et tu vois, c'est une des questions que je voulais te poser, c'est pour toi, c'est important d'avoir, tu vois, ce socle un peu familial, amoureux,
c'est
solide, pour
hein,
qui tu vois, les athlètes, ils en parlent jamais, tu vois. C'est pas un fouteux qui va nous dire ouais. Ah, ma femme, elle m'a beaucoup aidé. C'est souvent quand on entend parler des femmes, c'est plutôt pour des moins bonnes raisons, tu vois. Donc
j'avais pas pensé ça non plus. Non, mais pour partir tout seul, il faut être bien accompagné. Oui, comme tu dis, il y a des femmes extraordinaires, hein, tu vois, des femmes marins extraordinaires, tu vois. Hélène MacArthur qui avait fait deuxième, Samantha Davis qui est extraordinaire, Isabelle Jochke qui fait le Vendée Globe qui est extraordinaire, et Clarisse Kremer qui est d'une elle est pas sympathique parce qu'elle dit qu'elle sait rien faire alors qu'elle est hyper douée, elle est hyper forte.
Mais oui,
elle est tellement marrante. mais au faire gaffe parce qu'elle est marrante, mais c'est une conquérante, ouais. Donc
ouais, je pense qu'elle fait partie d'ailleurs des navigatrices qui, dans quelques années, là, elle commence à avoir des places sérieuses, quoi.
Non, mais là,
ça rigole plus du tout, quoi.
Ils ont racheté Apivia, quand même.
Ouais.
Ils ont pu racheter Apivia, tu vois, donc,
le projet, c'est ambitieux,
c'est. Ah ouais, c'est un projet ambitieux, mais avec sa fraîcheur, voilà.
Ouais.
Sa fraîcheur qui est un peu insouciant, c'est un peu chiant, même, tu vois, merde. Elle est sympa, elle est rigolote, elle est intelligente, mince, bon, d'accord. Bon,
elle a tout pour elle, hein. Ça me met des blondes aux yeux bleus et tout.
Donc non, mais c'est important, de d'être bien accompagné, c'est clair, parce que faut pas rêver. Il y a des moments de doute, il y a des moments de doute. Moi, il y a pas longtemps, tu vois, la Vendée Arctique, j'ai abandonné la course à quelques milles de l'arrivée parce que je le sentais plus, tu vois.
Ouais.
Et dans ces moments-là, il faut être bien accompagné par son équipe, mais par sa famille, par sa compagne, voilà. Voilà, je dis souvent que la femme de ma vie, c'est ma mère. Mmh. Ça fait d'un classique, d'un naze. Mais pourtant, ma mère m'a toujours aidé. Quand j'étais malade, elle était là constamment. Quand j'abandonne une course, elle dit « mais t'es le meilleur ». Quand je finis une course, elle dit « je suis le meilleur ». Voilà. Donc oui, j'étais toujours accompagné de femmes extraordinaires, ma mère, mes deux sœurs, ma compagne que t'as croisée précédemment, voilà, et c'est important de, oui, c'est clair. Mais heureusement, hein, c'était tout. On croit qu'un marin c'est solitaire.
Mais c'est ça que j'allais te demander.
Enfin, moi, je suis pas solitaire.
Toi, t'es hyper social, tu vois, parler, tu fais des blagues tout le monde. Bah, ça te fait pas chier là, les 3 mois en mer
Ce qui me ferait chier, c'est partir 3 mois en mer, pas en course, juste pour échapper à quelque chose. Moi, quand je pars en mer tout seul, je vais pas pour échapper à quelque chose.
Tiens, pour revenir.
Je vais pour me prouver pas mal de choses, pour revenir avec plein de choses extraordinaires à raconter. J'ai vu des dauphins, j'ai vu des tortues. À un moment, j'ai doublé un bateau à l'équateur. Cet enfoiré m'a rattrapé, mais j'ai redoublé après. Mais Clarisse m'a redoublé. Et voilà, donc,
C'est vrai que vous êtes chamaillé, en plus, ouais, sur le dernier Vendée Globe.
Oui, un petit peu, mais bon, elle progresse. Elle a débuté la voile très tardivement. Hein.
Ouais, je sais.
C'est ça que c'est chouette, quoi, aussi.
Ouais. Ouais, son histoire, elle me l'a raconté à 24, 25 ans, quoi. C'est un truc.
Ouais.
C'est fou, quoi.
Ouais. Non, c'est chouette, Mais ça aussi, la course à la voile, il n'y a pas de classement féminin et masculin.
Ouais. Elle m'a mis une grosse baffe parce que je lui avais posé la question. Clarisse était la première skippeuse, tu vois, que j'interviewais, et je lui avais dit ouais, est-ce que tu vois, on peut avoir l'ambiance des marins, des pêcheurs, tu vois, un peu bourru, tu vois, un peu franche, tu vois. Elle me dit mais des fois ouais, il y a des petites blagues, mais qu'est-ce qu'on se marre déjà deux. Et elle me dit de deux, on n'y a pas de femmes, il y a pas d'hommes, on est tous des marins. Point barre.
Et bien fait pour ta gueule.
Et là, j'avais pris ouais. Tu sais, la bonne petite claque de journaliste, tu vois, c'est ça, quand tu te prends un petit retour. Mais c'est cool.
Une femme, c'est une force de caractère bien meilleure qu'un homme en moyenne, hein. Isabelle Autissier, hein, c'est un super marin aussi. Catherine Chabot, Isabelle Autissier, il y a eu plein de femmes extraordinaires. Carne Bovici, je sais pas si tu te rappelles, en 2004. Ouais. Elle fait Vendée Globe, elle fait dernière, mais si tu veux, au mois d'août, elle a un grave accident de voiture, hein. Mm-hmm. On l'appelait Carne Courage à l'époque, hein, parce que. Ouais. Voilà, donc du coup, c'est important d'être bien accompagné.
Cool.
Par des belles personnes.
bon, on arrive à la fin. J'avais promis que je te libérais justement pour ton week-end en amoureux et famille et potes. Et puis en plus, je vois que ma machine a encore plus de batterie. Tu dois vraiment fatiguer ma machine, je pense.
Bah, tu fais bouffer d'énergie.
les deux dernières questions du podcast, c'est celles que je pose à tous les invités. La première, c'est de savoir est-ce qu'il y a un livre, un film, je sais pas, une série, un album de musique que tu recommanderais à la terre entière de lire ou de regarder, tout ça leur ferait du bien. C'est la première question. Tu me dirais quoi?
Alors le film, bon, je suis un fan de Star Wars, mais bon, ça, non, le film qui m'a beaucoup touché, j'ai trouvé ça, enfin, c'est Lawrence d'Arabie.
Ouais.
Avec Peter O'Toole.
Ok.
Parce que bon, voilà, super acteur. Et un des livres qui m'a beaucoup marqué, c'est forcément, enfin, il y a plusieurs livres, parce que je lis pas beaucoup à terre, mais en mer, je lis beaucoup.
Ok.
Il y a plusieurs livres qui m'ont marqué. En mer, j'ai relu 100 millions de fois, mais j'ai lu une fois le Petit Prince en mer.
Ok.
Et c'est parti des livres, suivant comment t'es dans ta tête, tu le perçois différemment.
Ouais.
Et j'en ai pleuré d'émotion. Et un autre livre qui m'a extrêmement marqué, c'est la biographie de Magellan, de Stefan Zweig.
Ok.
Ça m'a marqué à deux titres, parce que il raconte que le premier homme qui a fait le tour du monde à la voile, c'était un esclave de Magellan qu'il avait affranchi, un black.
Ok.
Donc ça permet encore une fois de mettre une baffe à pas mal de monde. Mmh. Et la deuxième chose aussi, c'est Stefan Zweig, c'était un Allemand qui a écrit ce livre-là pendant l'époque du nazisme en Allemagne, qui a fui tout ça. Mmh. Et il est parti en Argentine écrire ce livre pour se renseigner là-dessus. Et il a tellement pas supporté que son pays fasse autant de trucs, qu'il s'en est, bon, il s'est suicidé après. Mais du coup, sa thérapie, ça a été écrire cette biographie de Magellan. Et je trouvais ça hyper touchant. Et encore une fois, ceux un jour qui traversent l'Atlantique à la voile, quel que soit le bateau, ou iront en croisière en bateau, quand tu lis un bouquin en mer, tu le lis pas de la même manière quand tu lis à terre.
Ouais.
Et c'est chouette.
Je viens de croire. Bah écoute, trop cool. Je me les note et je les lirai. Et la toute dernière question, c'est un peu comme un passage de flambeau olympique, mais c'est un passage de micro. Alors tu m'as cité beaucoup beaucoup de marins. Mais l'idée, c'est quels seraient les deux athlètes, un homme et une femme, parce qu'on, je suis très à cheval sur l'égalité.
Ouais, t'as raison.
Que tu me recommanderais d'aller interviewer. Alors on a cité plein de super skippers et je sais qu'il faut absolument que j'aille voir Yannick et Yves. Mais c'est promis, je le ferai parce que c'est une aventure humaine. Mais est-ce que il y a d'autres athlètes que tu me recommandes? Tu es sur un format où on peut rigoler, un peu casser un peu du sucre.
Faut aller voir Tessa Worley.
Ok, ok. Je retiens.
Faut aller voir Tessa. Et elle est tout le temps la banane.
Ok.
Quand elle gagne, quand elle gagne pas. Moi, elle m'a beaucoup beaucoup soutenu. C'est la marraine de mon bateau, mon précédent, et la marraine du prochain. Pendant le Vendée Globe, elle a fait une petite vidéo. Elle a mis sur son une GoPro et son casque. Elle a fait une descente pour. C'était mon cadeau Noël, tu vois.
Donc
c'est une super fille, une grand bornant, voilà, hyper attachante et hyper hyper forte. Et son mec, c'est Julien Lizeroux, je sais pas si ça te parle.
Ouais, bien sûr.
qui est un fou furieux de ski.
Ouais, les deux,
donc les deux, ils sont bien trop la paire. Ouais.
Ouais. Bon, bah, écoute, trop bien. Merci pour ces recos. Je te demanderai le contact de Tessa ou de son agent. Je suis pas sûr de l'avoir. Mais écoute, merci infiniment, Arnaud. Je me suis régalé. J'espère que toi aussi, tu vois, c'était pas trop sérieux.
Non.
On a un peu déconné.
Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on partage l'univers du quotidien d'un skipper. C'est pas que à un bateau qui navigue.
Ouais.
C'est une équipe. T'es arrivé tout à l'heure, il y avait des partenaires, ça qui est marrant.
Ouais.
Et puis, il faut parler d'amour, de liberté, de tolérance.
Ouais.
Et aussi, oui, dès que c'est de vitesse avec nos bateaux fabuleux, le dépassement de soi, c'est sûr.
Mais
la tolérance, pour moi, c'est hyper important. Pas mon histoire de vie, mais aussi mes histoires de rencontres au quotidien.
Bien sûr.
Faut pas pleurer, hein.
Ouais, t'inquiète. Écoute, merci pour ton accueil. Ta transparence, ton honnêteté, tes mots sincères, tes blagues aussi. Ça sera un très très bon souvenir et je suis sûr que les auditeurs, ça leur plaira aussi. Si ça vous a plu, vous envoyez un petit message à Arnaud sur Instagram, Facebook, partout où vous voulez, allez le voir directement au Sable d'Olonne et dites-lui que ça vous a plu. Voilà. À ciao tout le monde et à très bientôt. Salut Arnaud.
Salut, merci, bon vent.
Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, c'est sûrement que l'épisode vous a plu, donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode. J'ai mis tous les liens dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Et sinon, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview. Ciao !